إن الحمد لله نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi, en cette soirée du samedi 8 Jumad al-Thaniya 1431 de l'Hijr, qui correspond avec le 22 mai 2010, bi'idhnillahi ta'ala. Nous sommes dans le 8e cours, inshallah, et il reste 2 cours et on va terminer le livre, inshallah, pour revenir vers Riyad Salihin. Tayyib. On s'était arrêté lorsqu'on était en train de donner des preuves que après la mort, il y a quoi? Il y a le châtiment du tombeau et les délices du tombeau. Le châtiment du tombeau et les délices du tombeau. On avait dit que les dalils en cela, c'était les textes religieux, c'était la raison, c'était le sens inné. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va donner les dalils des textes religieux. On va donner un dalil qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Bukhari, alayhi rahmatullah, rapporte, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, qu'un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passa près de deux tombes. Il dit, ces deux hommes subissent des tourments. Et ce n'est pas pour un péché grave. Ces deux hommes subissent des tourments, c'est-à-dire quoi? Tandis que l'autre ne se préservait pas de son urine. Donc on voit ici bien, clairement, que le fait de faire la médisance et le fait de ne pas se préserver de son urine, ce sont les deux principaux châtiments qu'il y a dans la tombe. Tayyib, le hadith qu'a rapporté le Bukhari rahimahullah comportait que parmi les principales causes, un deux. Tayyib, on va essayer de hurler, de se voir tomber, du sommet d'une montagne. Et il y en a des gens qui veulent nous tuer, des gens qui courent derrière nous, des voyous, et comme ça. Des fois même au point de se réveiller. Et pourtant, si jamais quelqu'un s'approchait de nous pour nous voir, il verrait que on est dans une situation normale, on est en train de dormir. Il n'y a rien apparemment qui montre ce qu'on est en train de souffrir à l'intérieur ou bien les grandes joies qu'on est en train de ressentir à l'intérieur. Donc, quelle est la différence entre ça et celui qui est dans la tombe? C'est la même chose. Toi aussi, quand tu vas profaner la tombe et enlever pour voir, et enlever la terre pour voir le mort qu'il y a à l'intérieur, tu vas trouver que rien n'a changé en lui. Il est toujours le même. Si bien sûr tu vas le voir une heure après avoir été enterré, tu vas trouver toujours le même, il ne bouge pas, il est là. Et donc, ce n'est pas une cause pour dire Donc il n'y a pas le châtiment de la tombe. Car s'il y avait le châtiment de la tombe, j'aurais trouvé par exemple des bleus sur son corps, ou bien je l'aurais trouvé défiguré, ou bien. Car on va dire, quand quelqu'un est en train de dormir, il lui arrive de grands châtiments, on ne voit pas ces châtiments sur lui. Comme il lui arrive de grandes joies, il lui arrive qu'il ressente de grandes joies, alors qu'on ne voit pas ça aussi sur lui. Ensuite, il a dit que le dormeur voyait dans ses rêves des visions coïncidant à la vie quotidienne. Il se peut même qu'il voit le prophète alayhi salam, et il a dit, celui qui voit le prophète alayhi salam va le voir réellement, ça veut dire qu'il a rêvé de lui réellement, alors qu'on est toujours dans notre chambre et on n'a pas quitté notre lit. Il a dit, puisque ceci est possible dans cette vie, pourquoi ce n'est pas possible dans l'au-delà? Donc, si quelqu'un va dire, pourquoi lorsqu'on profane la tombe, on ne voit aucune modification? Donc voilà les réponses. La première, il est interdit de contredire les textes religieux par ce genre d'ambiguïté. Si le contradicteur prêtait réellement une attention aux textes religieux, il saurait alors pertinemment que ces ambiguïtés sont réfutables. Comme dit si bien un poète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh que de paroles vraies sont critiquées, et tout ça à cause d'une compréhension erronée. Combien de paroles vraies sont critiquées. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'une compréhension erronée. C'est-à-dire, la seconde preuve. Dans le monde du barzakh, vous savez c'est quoi le barzakh? C'est le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection. C'est-à-dire, entre la mort, quand quelqu'un va mourir, et le jour de la résurrection. Combien qu'il y a de temps? Allahu alam. Il se peut que ce soit un jour, il se peut que ce soit des milliards d'années. Ça, d'ailleurs. Maintenant, ce monde-là, la période qui est entre la mort, quand on est dans la tombe, et avant le jour de la résurrection, toute cette période s'appelle en arabe al-barzakh. Dans ce monde-là, le monde intermédiaire, les situations appartiennent au monde invisible qui est imperceptible par les sens. Et si celle-ci était réellement perceptible par les sens, la foi au monde du barzakh ne serait alors d'aucun profit. Je répète, dans le monde intermédiaire, c'est-à-dire le monde du barzakh, après être mort et avant la résurrection, quand on est dans la tombe, les situations appartiennent au monde invisible qui est imperceptible par les sens. Or, si celles-ci, les situations, si elles étaient vraiment et réellement perceptibles par les sens, alors la foi au monde du barzakh ne serait d'aucun profit. Alors le croyant au monde invisible ne se distinguerait pas des renieurs de ce monde invisible. Justement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait exprès qu'il n'y ait aucun élément comme ça visible qui puisse te prouver qu'il y a par exemple un châtiment, le châtiment de la tombe. Il a fait exprès pour laisser cela juste, au niveau de quoi? Au niveau de la foi. Est-ce que mon serviteur va croire en ces choses ou bien il va les renier? Parce que si c'était une chose qui pouvait être visible par tout le monde, alors dans ce cas-là, où est la différence entre le croyant et le mécréant? Il n'y a aucune différence. Tout le monde va venir et va voir de ses propres yeux qu'il y a quoi? Élargi, comme pour les gens du paradis. Il sera élargi de, si je ne me trompe pas, 35 mètres. Et plein de lumière. Donc tout le monde, même les bouddhistes, même les athées, alors ils vont croire. Ils vont dire, là, on a vu de nos yeux, donc, khlas, on n'a aucun doute. Mais Allah ne veut pas que ça soit ainsi. Taïb. Le troisième. Quelle est la troisième preuve qu'il y a vraiment le châtiment de la tombe et les délices? Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dit, seul le mort perçoit réellement les châtiments les délices, l'élargissement et le rétrécissement de la tombe. Et sa perception est similaire à celle du dormeur dans le monde des rêves. En effet, le dormeur, au moment de ses rêves, se voit dans un endroit étroit et angoissant, ou bien vaste et magnifique, tout en étant allongé sur son lit et enveloppé de sa couverture. Pour son entourage, il n'a pas bougé de son endroit initial. La situation du dormeur est comparable à la situation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation et ses compagnons, se trouvant autour de lui, n'entendaient rien du tout. Parfois même, un ange se présentait à lui, sallallahu alayhi wa sallam, sous la forme d'un homme et conversait avec lui sans que ses compagnons ne puissent percevoir ou entendre quelque chose. La quatrième preuve, Allah Azza wa Jal a limité la perception de ses créatures. Par conséquent, celles-ci ne peuvent percevoir toutes les choses existantes. On note ainsi, voilà un exemple, que les sept cieux et la terre, et ce qu'ils contiennent, glorifient réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui font le tasbih. Et parfois, Allah Ta'ala choisit de faire entendre cette glorification à certaines de ses créatures sans que nous puissions l'apercevoir. Allah Ta'ala a dit, les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Isra 44. Donc, si on va dire qu'on doit se baser seulement sur les choses perceptibles et les choses visibles, on va dire donc que les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, donc ils ne célèbrent pas la gloire d'Allah Ta'ala. Alors que Allah Ta'ala cite dans le Coran, dans ce verset explicite, que les sept cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve célèbrent sa gloire. Mais le problème, où est-ce qu'il est ? Le problème, c'est que ce sont des choses imperceptibles dans notre vue. Naam. C'est pour ça qu'il a dit, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Sinon, ils sont en train de le glorifier à Zawajal. Donc, la différence entre le croyant et le mécréant, c'est quoi ? Le croyant, il croit au texte. Le mécréant croit à seulement ce qu'il voit. Quant au croyant, il croit à ce qu'il voit, bien sûr, mais il croit aussi à des choses invisibles qui ont été décrétées dans des textes scriptuaires, comme le Coran et la Sunna. Voilà l'avantage du croyant sur le mécréant. On note de plus, dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, que les génies, bons et mauvais, font des va-et-vient sur terre. Et certains d'entre eux ont écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter le Coran. Ensuite, ils ont embrassé l'islam avant de se diriger vers leur peuple comme annonciateur d'une récompense, le paradis, et avertisseur d'un châtiment, l'enfer. Malgré cela, les djinns nous sont invisibles. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Ô enfant d'Adam, surat 7, verset 27, « Ô enfant d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères. » Naam. Je répète le verset, « Ô enfant d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur archant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, ses soldats, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point, à ceux qui ne croient point. Non. C'est quoi ici le témoin du corps ? Le témoin du corps, c'est le verset où Allah Ta'ala a dit ici, il vous voit, c'est qui lui ? Il, c'est le diable. Il vous voit, lui et ses suppôts, lui et ses soldats, lui et ses enfants, il nous voit sans qu'on les voit. Il nous voit sans qu'on les voit. Donc nous on croit que quoi ? qu'autour de nous, il y a des diables, il y a des satans, il y a des génies, il y a des djinns. Naam, c'en est plein, mais on ne peut pas les voir. Et le croyant dit que le fait que je ne puisse pas le voir, ça n'implique pas qu'ils n'existent pas. Ils existent, mais ils sont imperceptibles à ma vue. Quelle est la preuve qu'ils existent ? La preuve qu'ils existent, c'est le Coran et la Sunna. Naam, ce n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, seulement la vision des yeux. Si les individus, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, si les individus n'arrivent pas à percevoir toutes les choses existantes, il leur est alors interdit de renier ce qui a été confirmé à propos du monde invisible. Naam, si les individus n'arrivent pas à percevoir toutes les choses existantes, il leur est alors interdit de renier ce qui a été confirmé à propos du monde invisible. Naam. Ici, il dit une note, les djinns sont des créatures créées à partir de feu et ils appartiennent au monde de l'invisible. Allah Ta'ala a dit, et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Sourate Al-Hijr 27. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Qu'est-ce que ça veut dire, nous l'avions auparavant, auparavant créé? C'est-à-dire, nous l'avons créé avant l'être humain. C'est pour ça que, yani, d'abord le djinn, la création du djinn, ensuite la création de Adam. C'est pour ça que Allah Ta'ala a demandé au djinn de faire la prosternation à Adam. Et il a dit, surat 55, verset 15, il a dit, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Et l'imam muslim, rahimahullah, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les anges sont créés à partir de lumière, les djinns à partir de la flamme d'un feu sans fumée, et Adam à partir d'argile. Parmi les djinns se trouvent les diables, shayatin, les représentants du mal par excellence, les vrais ennemis des humains et aussi d'Allah Azza wa Jalla. Ceux-ci sont maudits par Allah. Et c'est uniquement par la soumission à Allah que les êtres humains peuvent échapper à leur mauvaise influence. Allah Ta'ala a dit, la ruse du diable est certes prédestination. Dans cette chose-là, la foi au destin, beaucoup de gens sont égarés. Et se sont égarés dans les temps passés et sont égarés jusqu'à de nos jours. Et d'autres resteront égarés jusqu'à la fin du monde, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il y a des gens qui, jusqu'à de nos jours, par exemple, si tu lui dis, par exemple, pourquoi tu ne commences pas à faire la prière, il te dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas encore guidé. Tu dis à la femme, pourquoi tu ne te voiles pas? Elle va te dire que Allah Ta'ala ne m'a pas encore guidé. Naam. Toi, pourquoi yani, tu ne m'as pas encore guidé? Dès qu'il me guidera, j'arrêterai l'alcool. Et comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là sont vraiment égarés dans yani, la prédestination et la foi au destin et n'ont rien compris en cela. Et à part les péchés qu'ils font, le fait de boire l'alcool ou de ne pas se voiler ou là, ajoutez à cela qu'ils mentent. Ils mentent sur Allah Azza wa Jal et disent que c'est de sa faute. C'est de sa faute, il ne m'a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne m'a pas guidé. Non, il ne m'a pas guidé. Donc, ce n'est pas de ma faute. Lorsqu'il me guidera, Inch'Allah, je ferai telle et telle chose. Non. Le Cheikh dit, rahimahullah, le destin, al-qadr, c'est la prédestination d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures selon son savoir antécédent et ce impliquer sa sagesse. Non. طيب on a répondu le qada ou le qadr. صح le qada ou le qadr. Je crois en français le qada ou le qadr. Bon, je sais pas comment on dit en français. Mais il y en a beaucoup cherchent à savoir quelle est la différence entre le qada ou le qadr. Les savants disent le qadr ici devenu qada. Et ça, la différence chez certains savants entre le qada ou le qadr. Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a écrit 50 000 ans. Par exemple, avant de créer les cieux et la terre, il a écrit, par exemple, je donne un exemple, que le Sharan al-Yum. Attendez une seconde, combien on est aujourd'hui dans la date? Par là. Que 22,5. Que le 8-6-1431, c'est-à-dire aujourd'hui, 22 mai 2010, qu'à 21h, hein, il y aurait un dars. Un dars, hein, de ma part. Et X et X et X et Y vont assister. Quand c'était écrit, cette chose, quand c'était écrit, avant que ça se produise, c'est-à-dire avant une heure, ou là hier, ou là il y a 100 ans, ou là, ça s'appelait Qadr. C'était seulement sur la table préservée. Ça n'avait pas encore eu lieu. Quand cette chose a eu lieu, il y a maintenant une heure, c'est rentré dans le quoi? Dans le Qadr. Qadr. Ce n'est plus Qadr. C'est Qadda. C'est un intérêt. La foi au destin comprend quatre grands points. La foi au destin comprend quatre grands points. C'est-à-dire, il n'y a pas le Qadda sans les quatre points que je vais citer. Et surtout, pour ceux qui ne comprennent pas les quatre points, ils vont vivre dans un ébranlement total et égarement total. Le premier point. Al-ilm, la science, la permission avec ses actes ou de ses serviteurs. Donc la première chose, c'est la science. C'est que il est impossible qu'une chose ait lieu dans ce monde ou va avoir lieu ou allait avoir lieu et n'a pas eu lieu. Ou sans que Allah Ta'ala n'ait su cela auparavant. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. Croire qu'Allah Ta'ala a connu toutes choses de façon globale et détaillée. Pourquoi on dit globale et détaillée? Hein? Parce que certains égarés disent qu'Allah Ta'ala ne connaît les choses que globalement, pas dans les détails. A'udhu billah. Et d'autres disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît les choses en détail que lorsqu'elles ont lieu. C'est-à-dire, avant d'avoir lieu, Allah ta'ala a su que la chose allait avoir lieu globalement. Allah ta'ala a su qu'il allait y avoir quelque chose qui s'appelle hadik ta'a tsunami hadik, globalement. Mais Allah ta'ala ne connaissait pas les détails. Combien de morts allaient mourir, combien de femmes, combien d'enfants, combien de bébés. Non, ils ne savaient pas jusqu'à ce que le tsunami a eu lieu. Ça, bien sûr, ce sont des égarés qui disent comme ça existe. Ce sont des l'écriture. Deuxièmement, le kitab. L'écriture. Taïb. S'il y a quelqu'un qui peut écrire avec moi, il écrit. Premièrement, l'ilm, la science. Deuxièmement, le kitab, l'écriture. C'est croire qu'Allah Ta'ala a écrit tout cela sur la tablette préservée auprès de lui. Et au sujet de ces deux points, Allah Ta'ala a dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur terre. Tout cela est dans un livre. Et cela est pour Allah bien facile. Surat al-Hajj, verset 70. Et je répète le verset. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les ciels, dans le ciel et sur terre, sur la terre. Tout cela est dans un livre, et cela pour Allah est bien facile. Donc, comme je disais, que pour comprendre la foi, pour comprendre le destin, la foi en lui, il y en a au destin, consiste à croire en quatre points importants. On l'avait cité. Premièrement, la science. La science, que Allah Azza wa Jal sait toutes choses de façon globale et détaillée. J'ai expliqué la différence entre ceux qui disent seulement global et ceux qui disent global et détaillé. La deuxième des choses, le kitab à l'écriture, le fait de croire et d'attester avec certitude que Allah Ta'ala a écrit tout cela sur la tablette préservée auprès de lui. Il a dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela pour Allah est facile. Cela pour Allah est bien facile. Sourate al-Hajj, verset 70. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre. C'est pour ça, dans l'authentique de Muslim, d'après Abdullah, Ibn Omar radiallahu ta'ala, ou bien Ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala, a dit, j'ai entendu le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a écrit la prédestination de toutes les choses 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Allahu Akbar. Donc, tout ce qui se passe sur cet univers a été écrit quand? A été écrit il y a 50 000 ans. 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Ce n'est pas il y a 50 000 ans de nos jours. C'est-à-dire avant qu'il ne crée les cieux et la terre, 50 000 ans auparavant, il avait déjà écrit tout ce qui allait se passer, seconde par seconde, avec les détails les plus infimes, comme j'ai dit tout à l'heure. Naam. Donc, la terre, quand est-ce qu'il a créé les cieux et la terre? Je ne sais pas combien que ça fait de milliards d'années. Imagine 50 000 ans avant cela. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses très importante, la volonté, le mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, croire que toutes les choses créées n'existent que par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Que ces choses soient reliées aux œuvres d'Allah ou bien à celles de ses créatures. Allah Ta'ala a dit, en ce qui concerne ses œuvres, lui Azza wa Jalla, il a dit, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Vous avez remarqué? Ton Seigneur crée ce qu'il veut. Donc c'est la volonté. Volonté d'Allah. Donc, Seigneur crée ce qu'il veut. Sourate 28, verset 68. Naam. Et fait ce qu'il veut aussi. Tayyib. Une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde. Naam. Ça, c'est pour le verset. Il a dit aussi, et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah fait ce qu'il veut. Sourate Ibrahim, verset 27. Et Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Donc, ce que veut Allah Ta'ala Azza wa Jal, il le fait. Personne ne peut entraver la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Si Allah Ta'ala décide de faire une chose, toutes les créatures et tous les djinns, s'ils allaient se mettre d'accord pour essayer d'entraver et d'arrêter cette chose que Allah Ta'ala veut faire, ils ne pourront jamais de leur vie. Ils ne pourront jamais de leur vie. Ça, c'est en ce qui concerne ses œuvres. Quant à ce qui concerne les œuvres des créatures, Allah Ta'ala a dit, et si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Si Allah Ta'ala avait voulu, il leur aurait donné la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Donc Allah Ta'ala ici n'a pas voulu. Si Allah avait voulu, ça veut dire que Allah Ta'ala n'a pas voulu leur donner la force pour qu'ils nous combattent. Sourate An-Nisa, verset 90. Il a dit, or si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc ainsi que ce qu'ils inventent. Sourate An'am, verset 137. Or si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc ainsi ce qu'ils inventent. Ici, je voudrais dire une chose très importante. Inch'Allah Ta'ala. C'est quoi? Pardon. La chose très importante, c'est que jamais, jamais, sur cet univers, que ce soit entre les cieux et la terre, ou sur la terre, ou dans les cieux, jamais une chose ne peut avoir lieu sans la volonté d'Allah Azza wa Jalla, sans que Allah Ta'ala ne le veuille. Jamais une chose ne peut avoir lieu dans cet univers sans que Allah Ta'ala ne le veuille. C'est pour ça qu'on dit en arabe, « La yakounu illa ma sha'Allah. »« Ma sha'Allah kan, wa ma lam yasha, la yakounu, wa lam yakounu. » Jamais une chose ne peut exister et avoir lieu dans cet univers sans quoi? Sans la volonté d'Allah Azza wa Jalla et sa permission. Mais, pour ne pas s'égarer, il faudrait que vous sachiez que on est en train de parler surtout de la volonté universelle. Car cela ne veut pas dire que si qu'elle ait lieu, cela ne veut pas dire et n'implique pas automatiquement que Allah Ta'ala aime cette chose. Allah Ta'ala a voulu que telle personne, par exemple, meure poignardée, assassinée et jetée du balcon. Il a voulu cette chose. Mais est-ce que Allah Ta'ala aime quand quelqu'un poignarde un autre et le jette du balcon? Il n'aime pas, il a interdit ça. Allah Ta'ala a voulu que Blis, que le shaitan là, soit créé. C'est lui-même qui l'a créé de feu. Mais est-ce que Allah Ta'ala aime le shaitan? Il l'aime ou bien il le maudit? Il le maudit. Donc il ne faut pas se tromper et dire que puisque Allah Ta'ala a voulu cette chose, ça veut dire qu'il l'aime. C'est pour ça que certains gens disent comme ça. Ils disent puisque telle chose a eu lieu, et elle a eu lieu donc avec la volonté d'Allah, donc c'est Allah Ta'ala qui a aimé cette chose, qui a aimé qu'elle se produise. Non. Allah Ta'ala crée des choses et ne les aime pas. Et aime des choses et ne les crée pas. Je répète, Allah Ta'ala crée des choses et ne les aime pas. Comme il a créé le shaitan et il ne l'aime pas. Et Allah Azza wa Jalla, par contre, aime des choses et ne les crée pas. Allah Ta'ala aime, par exemple, que Abu Jahl soit un croyant. Mais est-ce que Allah Ta'ala a créé cette chose, a fait de sorte que Abu Jahl soit un croyant? Il ne l'a pas été, il ne l'a pas fait. Allah Ta'ala aime que tous les gens rentrent dans l'islam. Mais est-ce que tous vont rentrer dans l'islam? Donc il aime des choses qu'il ne crée pas, qui n'ont pas lieu. Allah Ta'ala aime que par exemple, tel juif soit musulman. Mais il ne crée pas cette chose. Pour des sagesses que lui connaît, Azza wa Jal. Là, il faut bien faire la différence entre quoi? La volonté universelle et la volonté juridique. Ça, alhamdoulilah, on l'a expliqué plusieurs fois. Donc la quatrième chose, le quatrième point très important dans la prédestination, c'est quoi? Je répète, le premier point, c'était la science d'Allah. Aucune chose n'a lieu sans sa science. Deuxièmement, l'écriture. Aucune chose n'a lieu si elle n'a pas été écrite sur la tablette préservée. Troisième chose, aucune chose, c'est la volonté, aucune chose n'a lieu sans la volonté d'Allah. Si Allah Ta'ala ne veut pas une chose, elle ne pourra pas avoir lieu. Et enfin, quatrièmement, al-khalq, la création. Croire que toutes les choses existantes, concrètes ou abstraites, sont des créatures d'Allah Azza wa Jal dans leurs essences, leur caractère et leur mouvement. Croire que tout ce qu'il y a sur cet univers a été créé par Allah subhanahu wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate 39, verset 62, il a dit, Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Il a dit aussi, Et il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Naam. Et il a dit aussi, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Donc la croyance au destin, telle que décrite ci-dessus, ne réfute en aucune façon que l'individu possède une volonté quant au choix de ses actes et une capacité à les réaliser. D'ailleurs, les textes religieux, tout comme la réalité des choses, en apportent la preuve évidente. Maintenant, on va laisser ça pour le prochain cours. Les preuves qui prouvent quoi ? Qui prouvent que yani, tout ce qu'on a cité n'est pas en contradiction avec le fait que la personne est libre de faire yani, ce qu'elle veut. Ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que le fait qu'Allah Ta'ala ait écrit telle et telle chose, ça ne veut pas dire que tu ne puisses pas faire toi ce que tu veux, que tu n'es pas libre. Naam. Est-ce que vous m'entendez, le musulman ? Fais saut. Musulman, fais saut. Alhamdulillah. Parce que beaucoup de gens aussi, yani, ne se trouvent pas au milieu. Ou bien, ils disent que, yani, on n'a aucune liberté. Hein? On n'a aucune liberté. Tout ce qu'on fait, on est contraint de le faire. Ou bien, ils disent, comme disent aussi les autres, yani, ils disent que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons tout et qu'il n'y a pas de destin prédestination. Il n'y a rien qui a été écrit sur la tablette préservée. C'est nous qui faisons ce que nous voulons. Alors que Al-Sunnah ou Jama'a sont au milieu. Ils disent, c'est nous qui faisons ce que nous voulons. L'âme est attachée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu fais ce que tu veux, si Allah décide que tu fasses. Si on mette chez Ouna, il l'a en yasha Allah. Et vous ne voudrez que si Allah veut. C'est un verset. Mette chez Ouna. Sauf si Allah ta'ala veut. Vous n'avez pas remarqué que des fois, par exemple, la personne fait des projets dans sa tête. Des nuits ou des années en train de faire des projets dans sa tête. Ensuite, subhanallah, il s'avère à la fin que quoi ? Que ce qui est arrivé, c'est tout autre chose que ce qui a eu lieu maintenant. Subhanallah, c'est tout autre chose. C'était pas du tout ce que, yani, ce que la personne voulait qu'elle fasse. Je donne un exemple, comme ça, pour que vous compreniez un exemple plus clair. Des fois, la personne pense, par exemple, à se marier, à faire 1000 calculs. En pensant que ce sera telle fille qui habite dans tel endroit, tel immeuble, tel ceci, des années en train de penser comment arriver à elle pour lui demander. Alors que finalement, subhanallah, il va se marier avec toute une autre, ou là, qui est là, sa voisine en face de lui. Entre le fait que tu es libre de faire ce.
Et c'est en rapport avec le cours, hein. Comment faire parvenir un acte du vivant pour les morts? Comme par exemple, j'ai des parents et des grands-parents décédés, donc que dois-je faire pour les aider après leur mort et que ça leur parvienne? Barakallahu fikoum ya cheikh. Question de Bent Mohamed. C'est trop tard. Donc je passe à une autre question. La question de bébé à 34, peuple de Noé, alayhi salam. Donc la question, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh ya shir. Hayyakumullah. Sur quelle base de livres religieux le peuple de Noé, alayhi salam, faisait-il la prière? Barakallahu fikoum pour votre disponibilité envers nous. Question de Al-Layl. Salam alaykoum wa rahmatullahi ya shir. Est-il permis à une sœur du Minhaj de faire une rencontre avec un frère qui n'est pas du Minhaj? Barakallahu fikoum wa jazakumullah khaira. Conseillez-nous. Question de Ourt 19. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On m'a dit que les jeux de société avec des dés, même ceux pour les enfants, étaient haram. Pour la plupart d'entre eux, car ils fonctionnent avec des dés. Certains jeux de société se basent sur des dés, mais réservent aussi une bonne à la réflexion. Donc, réserve quoi? Non, allez. Et la stratégie. Donc, je voudrais avoir le jugement concernant ces jeux de société familiale qui allient le hasard et la réflexion. De même, est-ce qu'il est haram de jouer aux jeux vidéo, bien pour les enfants, où il y a plusieurs personnes dedans, notamment des magiciens, sachant que la personne qui y joue sait faire la différence avec le shirk et la vérité, et qu'elle ne croit pas à ce que disent certains personnages de ce jeu vidéo et s'en désavouent. Barakallahu fikoum ya Cheikh, qu'Allah vous récompense pour votre réponse et tous ceux qui participent à vos cours. Salam alaykoum wa rahmatullah. Alors la dernière question, salam alaykoum ya Cheikh, qu'Allah vous anoblisse et donc vous accorde le Firdaus pour tout ce que vous nous apportez. J'ai rattrapé mes jours de Ramadan manqués à cause des menstrues. Seulement, j'ai un doute, il me semble que j'ai 10 jours à rattraper. Mais j'en suis pas sûr. J'ai eu des menstrues au début et à la fin du mois de Ramadan. Que dois-je faire? Dois-je jeûner encore quelques jours peut-être ou pas? Sachant que j'ai beaucoup de weswas et de doutes généraux, surtout dans mes actes d'adoration. Barakallahu fikoum, ya Cheikh. Tfaddal, ya Cheikh.
Je n'ai pas compris pour la deuxième question, pour le peuple de Noé. Et enfin, pour la cinquième question, la cinquième, je suis sûr, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, d'avoir répondu la fois passée à cette question. Très sûr, même. J'ai même cité le dalil du Messie Dajjal. Non, comme quoi il allait rester un jour pendant une année, comment ils vont faire pour la salat? Donc je ne réponds pas, inshallah ta'ala, 2 et 3. Et je crois, Allah alam, quand j'ai terminé cette question et j'ai répondu une demi-heure après, on m'a aussi reposé la question. On m'a dit, répondez encore pour un des. Donc je crois que tu t'es trompé, tu as lu la même question. Et c'est une question de la fois passée. Allahu alam.
Enfin, je ne me suis pas trompé, mais je suis sûr que yani, la personne de mercredi, elle a reposé la question. À la coulihal, donc je relis la deuxième question, inshallah. Donc par rapport à Noé, la personne dit sur quelle base, sur quel livre le peuple de Noé, Noé il est venu avec un livre. Et à partir de ce livre-là, il faisait-il la prière en parlant du peuple de Noé? La coulée, c'est une question un petit peu mal posée, c'est ce que la personne veut dire. Donc, je vous relis une autre question, cher. L'autre question. C'est la question de Ifras, Inch'Allah. Elle dit, salam alaykoum, cher. Pouvez-vous nous dire tout ce que vous savez sur la rivière d'eau du paradis? Pas celle de l'eau, ni du miel, mais celle de l'eau. Donc, elle dit bien, pas celle du lait, ni du miel, mais celle de l'eau. Barakallahu fikoum. Très bien, sûr.
Bon, il a appelé ici déjà chez moi à Salat l'Aïcha. Donc, je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala. Vite, Inch'Allah, Subhanahu wa Azzawajal. En ce qui concerne l'acte du vivant pour le mort, surtout si c'est un père ou un grand-père ou un aïeul, hein, le père du grand-père est comme ça, les savants sont unanimes pour dire que si tu lui fais des invocations, ça arrive. Si tu lui fais des doigts, tu demandes à Allah de lui pardonner, tu demandes à Allah de le faire entrer au paradis, tu demandes à Allah de ne pas le faire entrer en enfer, et comme ça. Elle dit premièrement. Ensuite, il y a une autre chose, une deuxième sur laquelle les savants ont divergé. Est-ce que si on va acheter quelque chose, par exemple, en son nom, on va acheter un Coran et le mettre, par exemple, dans une mosquée en son nom, est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas? D'après Cheikh Ibn Uthaymeen, ça arrive. C'est pour ça qu'on prend cet avis, Inch'Allah, qui est bien, et qui nous pousse à faire du bien pour nos morts de la famille, et surtout ceux qui, nous, par rapport à eux, nous sommes leurs descendants. Donc on peut acheter des choses, construire une école en leur nom, construire une mosquée, construire quelque chose, fils Abdullah, en leur nom, Inch'Allah Ta'ala. Quant au peuple, la deuxième, je n'ai rien compris à cette question. Naam. Est-ce qu'il faisait la prière ou pas? Tout, yani, même avant l'islam, les messagers tous, naam, faisaient la prière. Et aussi, les peuples qui les suivaient. Mais ce n'était pas une prière comme la nôtre, pas avec yani, le wudu qu'on fait nous, et comme ça. Mais sinon, tous les messagers et leur peuple aussi, spécial à eux. Naam. Quant à la sœur du Minhaj, qui dit qu'elle allait faire une rencontre avec un frère qui n'est pas du Minhaj, la réponse, naam, cela dépend de cette sœur. Si la sœur, elle est mariable, elle sait qu'elle peut se marier, etc., naam, il ne se marie avec quelqu'un qui n'est pas de son Minhaj, parce qu'il ne serait jamais d'accord. Naam, il y aura beaucoup de disputes et ils ne vont pas se mettre d'accord. Même en parlant dans le din, elle va dire, tel savant, voilà, tel savant a dit X, a dit telle chose sur tel et tel prédicateur, et lui il va dire non, celui-là c'est un grand savant. Alors qu'elle lui dit non, ce savant, et yani, cette personne a été critiquée par les savants. Cheikh Fawzan a dit ça, Cheikh Rabi a dit ça, lui dit non, celui-là c'est un savant. Il ne faut pas dire comme ça. Et ils ne vont jamais se mettre d'accord, ça c'est un exemple, c'est tout. Mais maintenant, Si cette sœur, elle est maintenant âgée ou elle a des enfants et risque de ne pas se marier, etc., si maintenant elle va faire une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas de son minhaj et en même temps qui ne la gêne pas dans sa da'wah et yani, qui la laisse yani, apprendre, il la laisse fréquenter les sœurs du minhaj, il la laisse, yani, lui c'est quelqu'un qui n'est pas dans aucun minhaj, il se proclame de rien. C'est quelqu'un seulement qui travaille, qui vient à la maison, qui voit la télévision, qui est du matin au soir occupé. Dans ce cas, c'est bien qu'elle se marie. C'est mieux que de rester comme ça, yani, toute seule, célibataire. Mais s'il y a, comme j'ai dit, elle est celui du minhaj, ou bien qu'elle est mariable, elle ne doit pas se précipiter pour yani, se marier avec quelqu'un qui n'est pas, yani, qui ne voit pas comme elle, et ils ne sont pas dans le même minhaj. Naam, j'espère avoir été clair dans yani, cette chose. Pour les dés, naam, ce que je sais, c'est qu'il est interdit de jouer avec les dés. Le hadith a dit que quiconque, c'est-à-dire jouer avec, c'est comme s'il avait mis ses mains dans le sang, naam. Il a dit de quoi? Du porc, du halouf. Donc, avec les dés, on ne joue pas. Naam, on ne joue pas avec les jeux où il y a les dés, même s'il en est... Ça cultive, etc., etc. Naam. Il y a le texte, le hadith qui est sahih. Khlas, moi j'évite. Maintenant, pour les vidéos, etc., si c'est pour les enfants, Inch'Allah Ta'ala, on prend avec l'avis qui dit que c'est permis, mais à condition qu'il n'y ait pas yani, shirk, etc. Alors que la personne dit ici qu'il y a du shirk, etc., mais la personne yani, sait faire la différence. Lahda. Naam. Les vidéos où il y a le shirk, etc., on ne joue pas avec ces jeux. On ne joue pas avec ces jeux. Naam. Allahumma, sauf si c'est bien sûr, il y a du shirk qu'on va détruire. Par exemple, il y a une statue, et moi je vais tirer, par exemple, avec un fusil, je vais tirer sur la statue, pour par exemple, la briser, ou là je vais tirer sur la croix, ou là, dans ce cas. Mais s'il y a le shirk comme ça, et moi je vais... Yani jouer avec le shirk, etc., et entendre des paroles qui ne sont pas bien sur l'islam ou là, ça devient interdit. Naam. Donc reste la dernière question. Pour la rivière du paradis, la rivière d'eau, je ne connais pas grand-chose. À part ce qu'a dit le Coran, min ma'in ghayri asin, quand il a dit que l'eau qu'il y a dans la rivière, ou là, dans les rivières du paradis, est une eau qui ne change jamais d'odeur et bien sûr de couleur. Vous savez que si vous prenez un peu d'eau, vous allez la mettre dans une bassine. Et après 6 mois, vous allez jeter un coup d'œil dans cette bassine. Qu'est-ce que vous allez trouver? cette eau va puer. Vous allez même trouver de l'herbe. J'ai oublié comment il s'appelle de l'herbe. De l'herbe qui va, yani, surgir de cette eau. Vous allez même trouver que ça va donner une mauvaise, une très mauvaise odeur. Mais Allah Ta'ala, en parlant de l'eau du paradis, de la rivière, des algues, naam. Et on va même trouver même des vers à l'intérieur. Mais Allah Ta'ala, en parlant du paradis, il a dit que son eau jamais ne sentait quelque chose de mauvais. Jamais. Naam. Elle coule claire, masha'Allah, et scintillante, que jamais, yani, elle n'a quoi, elle ne changera d'odeur ni de couleur, et bien sûr, jamais aussi, yani, elle ne changera de saveur. Elle restera toujours une eau que, yani, si quelqu'un la boit, si quelqu'un la boit, il ne voudrait pas s'en arrêter. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. On va se rencontrer, inshallah, tout à l'heure. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykoum wa rahmatoullah wa barakatuh. Donc je vous donne, inshallah, le micro. Tafadhal.
Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair, inshallah. Alhamdulillah. Donc on passe aux 5 questions suivantes. Salam alaykoum wa rahmatullah, cher. Un frère clandestin sans papier en France travaille au noir. Il demande s'il envoie, exemple, 1000 euros dans son pays par l'intermédiaire d'une personne qui va remettre cette somme à sa famille, qui celle-ci par la suite va changer ses 1000 euros au noir pour l'avoir en dinar. Il voudrait savoir si ce change est halal ou pas. Barakallahu fikoum cheikh, qu'Allah vous guérisse et vous accorde le Firdaus ainsi qu'à tous les musulmans. Question de Firdaus. Assalamu alaikum. Quelle est la clé pour avoir un bon caractère? Surtout si la personne est nerveuse depuis l'enfance et elle tient ça de son père. Elle fait beaucoup d'efforts, mais elle est toujours blâmée par les autres. Barakallahu fikum. Question de Umaysara. Assalamu alaikum. J'espère que vous portez bien. Quel est le statut du mariage en mairie? Est-il obligatoire ou surérogatoire? Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous comble de tous ses bienfaits ainsi que les admins. Question de Abu Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour tout le bien que vous faites en donnant vos cours et vous accorde le Firdaus. Ma question pose sur l'habit dans la prière. Certains de mes pantalons et certains de mes qamis sont un peu longs au niveau des chevilles et des poignets. Est-ce autorisé de les retrousser et de prier comme ça dans la prière? Si oui, doivent-ils être retroussés vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Ou dois-je les détrousser avant de prier? Barakallahu fikoum pour votre réponse, qu'Allah vous préserve. Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis converti. J'ai divorcé et j'ai une fille. Je suis nouvelle dans la région où je vis et je connais peu de sœurs. J'aimerais me remarier, mais je ne sais pas comment choisir mon tuteur. Barakallahu fikum, qu'Allah vous élève en degré. Tfadal cher.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Pour la personne qui a parlé des euros qu'elle voulait envoyer au bled et demander si elle pouvait, yani, ou là, comment faire. Est-ce qu'on les... Attendez, cherche le mot. Naam. Comment on dit en arabe, en français, sarraf, hein? Sarraf, est-ce qu'on... Bon, disons les changer. Est-ce qu'on va les changer en dinar? Voilà, change. On va les changer. En noir ou bien dans la banque? Réponse, on va les changer en noir. On va les changer en noir. J'avais déjà posé cette question à un homme de science et c'est comme ça qu'il a répondu. Car en échangeant à la banque va te prendre une charge, je ne sais pas combien. Non. Sur 10 euros, elle va te prendre 2 euros peut-être. Alors que le vrai cours, c'est le cours qu'il y a en noir, pas celui de la banque. Celui de la banque, c'est l'officiel, c'est tout. Et pour la deuxième question, pour la clé, pour avoir un bon caractère, etc., il suffit, yani, il faut faire le djihad à soi-même. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Afdalul djihad, djihadun nafs. Ça, c'est qui? C'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Afdalul djihad, djihadun nafs. Bukhari. Le meilleur djihad, il a dit, c'est le djihad du nafs. Donc, quand je m'énerve, j'essaie de me retenir. Quand j'ai envie de dire des choses qui ne sont pas bien, j'essaie de me retenir. Quand j'ai envie de voir des choses qui sont haram, j'essaie de me retenir. Tout cela, c'est quoi? C'est le djihad. Comme a dit le prophète, le meilleur djihad, c'est le djihad de quoi? Du nafs, rapporté par Bukhari. Donc, c'est pour ça que tu trouves que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit dans le hadith, on lui a dit, c'est quoi la meilleure œuvre? Il a dit que tu fasses la salat en son heure. Il lui a dit, ensuite quoi? Il a dit, obéir à ses parents. Et ensuite quoi? Il a dit, le djihad. Pourquoi il l'a mis en troisième position? Car celui qui ne peut pas prier à l'heure, ni obéir à ses parents, comment peut-il aller au djihad? Lui qui fait des grands péchés, il prie pas à l'heure et il n'obéit pas à ses parents. Deuxième grand péché. Ensuite, ne pas obéir à ses parents, comment qu'il va obéir à son chef dans le djihad? Ton père et ta mère, qui ont été la cause de ta venue dans ce monde, tu leur obéis pas. Tu vas obéir à je ne sais pas qui, au colonel, le général là, qui va te commander dans la guerre sainte. Tu vas lui obéir à lui, un étranger. C'est pas possible. Un moyen. Donc la clé, inshallah ta'ala, pour avoir un bon caractère, c'est de faire du djihad à soi-même. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, ceux qui font le djihad en nous, on va leur ouvrir et leur faire des issues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset dans un hadith rapporté par Ahmed. Et Cheikh Al-Albani a dit authentique. Comment a-t-il expliqué ce verset? Il a expliqué ce verset en disant, Ey, jahadu anfusahum fi dhatillah. Il a dit, c'est-à-dire, ils ont fait le djihad sur eux-mêmes. Fisabilillah, le djihad sur eux-mêmes, fisabilillah. Comment je fais le djihad sur moi-même? Il y a des gens qui, jusqu'à présent, comme je disais, quand ils parlent, ils disent des choses obscènes, ils disent des choses haram. Celui-là, il n'a pas encore fait le djihad de sa langue. D'autres n'ont pas fait le djihad des yeux. Ils s'assoient en face de la télé et voient des choses obscènes, des choses haram, des choses dont Allah Ta'ala est en colère contre eux quand ils sont en train de voir. Non, il n'a pas fait le djihad de quoi? De ses yeux. D'autres n'ont pas fait le djihad de leurs oreilles. Ils écoutent des choses haram. Ils s'assoient avec des choses à fond. Des personnes disent des choses haram. Si je vous disais, dans des salles islamiques, Zama, islamiques, vous rentrez, vous lisez des choses horribles. Des choses horribles que même des sœurs disent. Des sœurs, Zama, soi-disant sœurs, soi-disant. Derrière le PC, on ne sait jamais. Zama, des sœurs, des frères. Certains salons, Zama islamiques, Zama islam, au nom d'Allah et de son prophète, ils disent des choses de aïb, aïb, de haram entre eux. Et cela, peut-être que, yani, du matin au soir, peut-être que ils n'arrêtent pas de parler de djihad. On va au djihad, on va tuer les juifs, on va tuer les américains, on va tuer je ne sais pas qui. Comment tu peux tuer l'américain? Tu n'as pas tué le shaitan qui est en toi. Le shaitan qui est en toi, c'est lui qui te commande. C'est pas Allah Ta'ala et son prophète qui te commande. C'est le shaitan qui est en toi qui te commande, tu vas faire le djihad. Allah yahdina. Pour la troisième personne qui a dit, est-ce que le mariage à la mairie est surrogatoire ou bien obligatoire? Le mariage à la mairie de nos jours, surtout dans un pays musulman, est obligatoire, on dit les savants. Obligatoire. Autrefois, il n'y avait pas le mariage à la mairie. Il suffit que tu fasses cela avec ton tuteur. Devant deux témoins, ça suffit, deux témoins fiables. De nos jours, ce n'est plus suffisant. C'est suffisant pour que le couple soit halal l'un pour l'autre. C'est suffisant pour qu'ils puissent, yani, jouir l'un de l'autre. Mais ce n'est pas suffisant qu'ils sont quoi? Qu'ils sont de papier. De nos jours, regardez dans le Coran, Allah Ta'ala, pour une chose simple, il a dit que si quelqu'un prête à quelqu'un, yani, un dinar, qu'il l'écrive. Dans le plus grand verset qu'il y a dans le Coran, Sourate Al-Baqara. Subhanallah. Maintenant, Si on ne va pas écrire cet acte et on ne va pas à la mairie, on ne va pas l'écrire avec des papiers officiels, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que demain, il va y avoir des problèmes énormes. L'homme, après avoir consommé le mariage, il va dire, je ne connais pas cette femme. Ni je ne reconnais l'enfant qui est dans son ventre. Ce n'est pas le mien. J'ai jamais connu cette femme. C'est une menteuse. Non, mais elle m'a accusé. Alors que, subhanallah, il s'est marié avec elle devant deux témoins et imams. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de papier. Et demain, il meurt, l'homme meurt, la femme va demander l'héritage, les parents de l'homme vont dire à la femme, on ne te connaît pas, c'est qui toi? Elle va dire, mais je suis marié avec votre fils. Il dit, dans la preuve que tu es marié avec notre fils. Tu n'es pas marié, tu veux profiter pour hériter les villas et les belles voitures qu'il a laissées. Allez, dégage d'ici. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de papier. Et laisser des milliers de problèmes qui peuvent surgir quand on n'a pas de papier. Donc les savants ont dit maintenant, le mariage à la mairie est obligatoire. Mieux, je vous dis mieux, les savants disent que quand tu te maries à la mairie musulmane, quand tu te maries, ça te suffit et ce n'est plus la peine d'aller faire l'acte, l'acte zawaj. Ça suffit. Pourquoi? Parce qu'à la mairie, il y a quelqu'un qui te marie, tu es avec ton tuteur et tu as pris deux témoins avec toi. Pour aller à la mairie, il faut prendre deux témoins. Du moins chez nous. Ouais, chez nous, comme ça se passe. Tu prends avec toi deux témoins, ton tuteur si tu es une sœur. Ensuite, il y a l'autre qui te pose des questions. Tu es d'accord, je suis d'accord. Là, vous êtes mariés. Donc, là, vous avez fait l'acte. C'est plus la peine de faire l'acte avec un imam à la mosquée, etc. Maintenant, si c'est un pays de kofar, le vrai mariage, c'est bien sûr le mariage religieux. Plus, on doit aussi aller à la mairie pour faire quoi? Pour faire les papiers. Je ne vais pas à la mairie parce que je reconnais les lois de la mairie, mais c'est pourquoi? C'est pour me préserver moi, mes droits et mes enfants. Non, comme ça disent les savants. Pour la personne qui avait dit que le pantalon était long et le kamis long, etc., bien sûr, pour un homme, c'est haram. Ça rentre même dans un grand péché. Et il faut les retrousser vers l'intérieur. Ce n'est pas vers l'extérieur, mais on retrousse vers l'intérieur pour que ça soit au niveau des chevilles et pour que ça soit pour le ramis au niveau du poignet, au niveau du poignet. Non. Et enfin, pour la divorcée, la reconvertie qui est divorcée, qui a dit, je ne sais pas comment choisir mon tuteur, je lui dis, le tuteur, c'est la chose la plus facile. Mais d'abord, choisis le prétendant, qui est celui avec lequel tu veux te marier. Si tu l'as déjà choisi, hein, ensuite tu choisis un imam, ou bien un frère, ou bien un voisin, quelqu'un qui, d'après toi, remplit les conditions. Remplit les conditions, que c'est quelqu'un de fiable, que c'est quelqu'un de pieux, que c'est quelqu'un qui a de la science, que c'est quelqu'un dans le minhaj. Ensuite, tu lui proposes, par l'intermédiaire d'une autre sœur, ou de sa sœur, ou de sa mère, ou là, qu'il soit ton tuteur, Inch'Allah ta'ala.
Donc on continue sûrement. C'est la question de Abou Suleiman. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, Cheikh, ainsi que votre foyer. Certaines sœurs confectionnent des jilbabs et l'envoient. Cependant, elles vendent des couleurs qui sont parfois vives ou très claires. Donc il demande, je vous joins une photo où vous verrez certaines de ces couleurs. Il demande, est-ce que c'est permis de porter ce genre de couleurs? Rouge, fraise, corail, bleu, ciel, etc. Donc là, il faut que je vous passe je vous donne l'image, Cheikh. Deuxième question, celle de Bilal. Salam alaykoum, Cheikh. Est-ce que les deux unités de prière avant Salat al-Fajr sont obligatoires? Pouvez-vous me dire quelle sourate réciter durant ces deux unités? Qu'Allah vous récompense. Troisième question, donc, Adam 93. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous nous dire comment expliquer l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ceux qui la négligent, pensant qu'il n'y a aucune obligation à la pratiquer? Quatrième question, Cheikh. De Mohamed. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa sallam. Une personne a rêvé que sa sœur Fillah était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était Il était au loin, debout, face à face. Ils étaient au loin, debout, face à face. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un visage rayonnant, vêtu de blanc, barbe blanche. Il parlait à la sœur tout en souriant, et elle était ravie d'être en sa présence. Comment interpréter ce rêve et la présence de la sœur aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui parlait et souriait? Barakallahu fikoum. Dernière question, cher. Donc, quelle est votre récompense pour la science que vous nous enseignez? C'est une question anonyme. Mon mari a repris une société il y a à peu près 6 mois. On lui avait dit, soi-disant, que c'était une société qui marchait bien et qui fonctionnait très bien. Seulement, pour avoir cette société, mon mari a dû contracter plusieurs dettes. Les fins de mois sont très difficiles. Il est très anxieux et n'a plus de temps pour sa religion et malheureusement sa foi a baissé. La question, cher, peut-il reprendre son ancien travail où il y avait de la mixité, mais où il pouvait faire ses prières à l'heure et il y avait plus de temps pour sa religion? Et ainsi, il n'aura plus de dette. Donc, je recommence la question, cher, parce qu'elle a été mal formulée. Peut-il reprendre son ancien travail où il travaillait avant et il y avait donc de la mixité, mais il pouvait, malgré ça, faire ses prières à l'heure. Et ça ne change pas, ça ne change pas quant à sa religion, donc il n'a pas le temps pour tout faire. Et il compte donc annuler ses dettes en reprenant ce travail. Voilà, cher. Très bien, cher.
Je commence par la première. Sans voir les couleurs de Jilbab, il m'a suffi d'écouter les couleurs. Tu as dit rose, tu as dit je ne sais pas quoi, dit que pistache, je ne sais pas ce que tu as dit. Un mohim. Le Jilbab, l'habit en général, l'habit de la femme comme l'habit de l'homme aussi. Non. Ils ont des conditions. Donc l'habit de la femme, parmi les conditions qu'il y a, c'est que il ne soit pas un habit de mode. Zina, il ne soit pas un habit parure, mais qu'il soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Soit mis pour Allah azza wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que je vais mettre quelque chose, Yannick, de sale, ni quelque chose de moche. Mais même si c'est quelque chose de beau ou cher, que je vais mettre, mais je vais choisir des couleurs qui ne sont pas une fitna. Le rose, imaginez un djilbab rose, la sœur serait visible à des centaines de mètres. À des centaines de mètres, on va dire, regardez là-bas, la sœur en rose, avec donc quelque chose de très attirant. Or que le meilleur djilbab pour la femme, c'est celui qui a la couleur, une couleur plus ou moins foncée, comme le noir, le marron, marron foncé. Même si c'est marron clair, plus ou moins. Mais par exemple, rose et bleu turquoise, etc. La sœur ne devrait pas le mettre. Quoi. Je ne peux pas dire comme ça, à 100% que c'est haram. Je n'ai pas l'audace de dire cette chose, mais je dis que ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Car l'une des conditions du djilbab est qu'il ne soit pas une parure en lui-même et qu'il ne soit pas attirant. Or le rose et le bleu turquoise comme ça et bleu ciel, ça attire. Donc le meilleur djilbab c'est le noir ou bien le bleu foncé, bleu marine, vert foncé et comme ça. Les couleurs foncées sont les meilleures pour celle qui a mis le djilbab pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la deuxième question, avant le Fajr, qu'est-ce qu'on fait, les deux rakats? Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé la couleur rouge, c'est vif. Non. Il faut qu'on soit d'accord sur les termes d'abord. Parce que chez certains gens, ils disent Fajr alors que c'est qu'ils parlent de Salat Subh. Et d'autres, ils disent Subh alors qu'ils parlent de Salat al-Fajr. Donc, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur les termes pour pouvoir parler. Donc, on va se mettre d'accord sur une chose. Non, on va se mettre d'accord pour dire que on va appeler Salat al-Subh la prière obligatoire. D'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez ou là ça coupe trop hein? La même chose pour toi, le roi là-bas, ça coupe chez toi. Je vais sortir et revenir, Inch'Allah. Salam alaikum. En fait, je pense que le paltok aujourd'hui n'est pas bien, Allah alam. Parce que même toi, le roi là-bas, quand tu parlais, yani, vraiment, il y avait. Des coupures, des beaucoup de coupures. Le moyen. On va se mettre d'accord pour dire que. Non, on va se mettre d'accord pour dire que Salat al-Subh, c'est la salat obligatoire. Et Salat al-Fajr, ce sont les deux rak'at qui sont sunnah après la salat, avant la Salat al-Subh. Non. Muslim, vous m'entendez, Muslim? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va là, alhamdoulilah. Et gris, si c'est gris foncé, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Pas un gris clair. Non, pas un gris vif. Un gris foncé. Non. Je disais pour salat, la salat, il y a la salat obligatoire qui s'appelle salat sobh. Avant elle, il y a une salat qui s'appelle salat al-fajr, qui est seulement sunnah. Seulement sunnah, mais c'est une sunnah recommandée. Recommandée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé salat al-fajr et salat al-witr, alors que ces deux salats sont seulement des surrogatoires. Mais elles s'appellent des rawatib. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a délaissés, qu'il soit chez lui ou qu'il soit en voyage, subhanallah. Même en voyage, il n'a jamais laissé salat al-fajr et salat al-witr, alors qu'il délaissait les autres. 4 avant d'or, 2 après d'or, 2 après le maghrib. Non, deux après l'Aïcha. Et d'où il est délaissé quand il était en voyage. Qu'est-ce qu'on va lire dans ces deux rak'at? On va lire dans la première, « Qul ya ayyuhal kafirun » et dans la deuxième, « Qul huwallahu ahad » la plupart du temps. Mais il est permis de changer. Le prophète al-Islam a changé. Une fois, il l'a lu avec yani, d'autres sourds. Il l'a lu avec d'autres sourds. « Qul ya ayyuhal kitab ta'ala wa ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum » Donc voilà pour la salat. Maintenant pour l'importance de la sunna. La personne qui a dit que beaucoup de gens ne donnaient pas d'importance à la sunna. Je dis à la personne qui ne donne pas d'importance à la sunna, alors qu'elle m'explique, si on va se baser seulement sur le Coran, qu'elle nous explique où c'est écrit dans le Coran que la prière du Subh c'est 2, la prière du Asr c'est 4 unités. La prière du Dor, c'est 4 unités. La prière du Maghreb, c'est 3 unités. Et l'Aïcha, c'est 4. Où est-ce que c'est écrit ça dans le Coran? Qu'elle nous explique alors dans le Coran, où est-ce que c'est écrit que la zakat, si ça commence à partir de 40 moutons, ça commence à partir de 85 grammes d'or, ça commence à partir de 540 95 grammes d'argent. Et comme ça. Où c'est écrit ça? Dans le Coran. Et qu'elle nous dise aussi, pour toutes les choses, pour le siyam. Qu'est-ce qui annule le siyam? Qu'est-ce qui n'annule pas? Qu'est-ce qui est permis dans le siyam? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'elle nous dise même dans le wudu. Où est la preuve dans le Coran que le fait de faire entrer de l'eau dans la bouche et dans le nez, c'est une chose obligatoire. Où est-ce que ça se trouve ça dans le Coran? Et comme ça, pour le Hajj, où est-ce qu'il y a ça dans le Coran? Où est-ce qu'il y a dans le Coran que le voleur n'a un gramme d'or? Un quart de gramme d'or et 7. S'il vole un bonbon, je lui coupe la main. Pourquoi? C'est Allah Ta'ala qui a dit comme ça dans le Coran. Il a dit, le voleur, coupez-lui la main. Celui-là, il a volé une banane. Alors que ce n'est pas vrai. Le hadith a dit, il faut qu'il vole un gramme, un quart, même un quart, rub' dinar, un quart de dinar en or. Sinon, on n'a pas le droit de lui couper la main. Et plus quelqu'un connaît la sunna, plus quoi? Plus il devient guidé. Car Allah Ta'ala, en parlant du prophète, il a dit, il a dit, et si vous lui obéissez, vous serez guidé. Si vous lui obéissez, vous serez guidé. Ça veut dire que plus tu obéis au prophète, plus la guidée descend dans ton cœur. Et moins tu lui obéis, plus tu es loin de la guidée. Et plus on est loin de la guidée, plus on est dans l'égarement, comme vous savez. D'ailleurs, toutes les fitnas qu'il y a, par exemple, et toutes les sectes qui existent sur le terrain, les sectes d'où elles sont venues? Il n'y a pas de Coran? Le Coran est là entre nous, entre nos mains. Pourquoi donc il y a des sectes? Il y a des sectes parce qu'il n'y a pas la sunna. Comprenez? C'est pas parce qu'il n'y a pas le Coran. C'est parce qu'il n'y a pas la sunna. Non, quand les gens sont loin de la sunna, il y a ce que vous voyez de nos jours, les sectes qu'il y a, naam, et les grandes fitnas qu'il y a, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver des fitnas. Pour la personne qui a rêvé, sa soeur a rêvé, yani comme quoi elle était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Je dis, ce n'est pas toute personne qui a dit j'ai rêvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça veut dire elle a rêvé de lui. Ce n'est pas toute personne qui voit dans le rêve qu'elle a rêvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça veut dire elle a rêvé de lui. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, il a dit le shaitan ne peut pas venir dans mon image. Quiconque m'a vu dans le rêve me verra dans la réalité. Donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le shaitan ne peut pas venir dans mon image. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le shaitan, autre que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et te dire, c'est moi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait les cheveux noirs, et les yeux noirs, et il avait une peau blanche, yani blanche avec... Yani rougeâtre, blanche avec yani un peu de rouge. Non, c'est comme quelqu'un qui est blanc, quand il a froid, la neige, etc., il devient rouge. Il était toujours comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, va nous dire, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve. On lui dit, comment il était, par exemple? Il dit, je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un avec des cheveux blancs et des yeux verts. Non. Et, par exemple, qu'il faisait 1m50, alors que le prophète alayhi salam faisait plus, car il était ni grand ni petit. Il faisait peut-être 1m65, 70, quelque chose comme ça. Et le Mouhim, il va nous dire, je l'ai vu avec les cheveux blancs et les yeux verts. On va lui dire, tu n'as pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car, s'il va nous dire, mais le prophète a dit que, Shaitan ne peut pas venir avec mon image. On lui dit, justement, celui-là n'est pas venu avec l'image du prophète alayhi salatu salam. C'est-à-dire que le shaitan ne peut pas venir avec la vraie description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas venir avec les cheveux noirs, les yeux noirs, le teint blanc et la même taille des femmes et dire c'est moi le prophète. C'est-à-dire, il ne peut pas le faire. Mais il peut venir avec une autre description, une autre image. Non, une autre image. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui disait, on a vu le prophète alayhi salam. Voilà. Le prophète Naam, Abdullah ibn Abbas, quand on lui a dit, ou là on lui disait, Ya Rasul, voilà, explique-nous, yani on a vu le prophète alayhi salam dans le rêve. Il disait, la première question, il disait à celui qui allait n'était pas comme ça. Donc il l'arrête. Il l'arrête carrément. Il lui dit non, c'est pas lui. La même chose Hassan Basri. Quand on lui racontait des rêves, J'ai vu le prophète Aslam, il lui décrit le moi. Il lui décrit d'une autre façon, il lui dit non, c'est pas lui. Le prophète Aslam n'était pas comme ça. Non. Remarquez que la sœur a dit qu'elle avait vu le prophète, celle-là, celle qui a posé la question, elle a dit avec la barbe blanche. Alors que le prophète Aslam n'avait pas une barbe blanche. Il avait seulement quelques poils ou quelques cheveux blancs qui se comptaient. Certains ont dit 20, d'autres ont dit 19, qui se comptaient, mais n'avaient pas la barbe blanche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a vu une personne avec la barbe blanche, c'était le père de Abu Bakr Siddiq. Il a dit pourquoi vous laissez cette personne avec les cheveux blancs. Il a dit pourquoi vous laissez cette personne avec les cheveux blancs. Et il nous a ordonné de nous distinguer des juifs et des chrétiens. On se distingue d'eux, entre autres, en quoi? En ne pas laissant, on ne va pas laisser nos cheveux comme ça blancs et notre barbe blanche. C'est pour ça que dans la sunna, il nous faisait beaucoup rire. Et qu'une fois, il a entendu quelqu'un dire que sa femme ou lui ou je ne sais pas, a dit qu'elle avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors mon ami lui a demandé, il a dit, décris-le-moi, comment qu'il était. Il a dit, je l'ai vu de couleur noire. De couleur noire, et yani sa peau, de couleur noire, avec les cheveux frisés, etc. Il lui a dit, tu n'as pas vu le prophète Aslam, mais tu as vu Pelé, le grand footballeur, vous connaissez. Il est noir, il a les cheveux frisés, là, tu as dû voir Pelé, c'est sûr. Donc le prophète Aslam, pour le voir, il faut le voir lui. Il faut le voir lui avec sa description. C'est pour ça que les savants ont dit, pour voir le prophète alayhi salam, dans le rêve, il faut que, ou bien, avoir vécu avec lui, comme les sahaba et leurs enfants, ou bien, être quelqu'un qui connaît bien ses descriptions. Être quelqu'un qui connaît bien le prophète alayhi salam, d'après les livres de la sunna. Connaît bien comment il s'habillait, quelle était la couleur de sa peau, quelle taille il avait, ses cheveux, est-ce qu'ils étaient lisses, ou bien ils étaient crépus, et comme ça. Celui-là peut voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si Allah ta'ala lui donne cette faveur, et quoi? Et, yani, et voit de lui qu'il mérite, et qu'il a quoi? Et qu'il a l'ikhlas. C'est pour ça que toutes les personnes qui ne font pas, par exemple, la prière, et toutes les femmes qui ne sont pas voilées, et tous les hommes qui font l'usure, qui font la zina, et qui font, et vous disent, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut les démentir. Et leur dit, c'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le voir, il faut vraiment, vraiment, vraiment être yani, rapproché chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être rapproché chez Allah, il faut être un pieux. Et celle qui ne porte pas le voile, et celui qui fume, et celui qui fait l'usure, et fait la zina, c'est quelqu'un qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il qu'il puisse voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si, non, il pouvait seulement voir un des grands savants, il ne pourrait pas peut-être. Je te demande seulement d'essayer de voir Ibn Taymiyyah dans le rêve, ou de voir Ibn Qayyim Jawziya, ou bien de voir l'imam Nawawi, de voir Ibn Hajj, de voir les grands ados. Peut-être que toute ta vie, tu ne verras pas quelqu'un de cela. Essaye de voir l'imam Malik si tu peux dans le songe, ou bien Shafi'i, ou bien Ahmed, ou bien Abu Hanifa. Peut-être que tu vivras 100 ans, tu n'auras pas cette faveur. Comment se fait-il que tu verras le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu es loin? Alors que tu es loin. Dame, al-Muhim, on dit à ça. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de cela que un bien t'arrivera. Naam. Enfin, pour la personne qui est endettée, naam, et qui s'est remplie de dettes, etc., je lui dis, je donne un conseil à mes frères et à mes soeurs, surtout à mes frères, n'am, mettez l'eau de là entre vos yeux beaucoup plus que cette dunya. Cette dunya, tu vas, n'am, si elle va t'ouvrir ses portes, ensuite tu vas avoir dans le cœur que tu veux t'enrichir, que tu veux posséder des palais et les meilleures voitures et la piscine, etc. N'am. Ensuite, que peut te faire cette dunya? Cette dunya peut te jeter. N'am. Te jeter comme quelqu'un on jette, on lui donne un coup de pied, on jette de la porte, n'am. Et tu vas te trouver seul, endetté, chagriné, abandonné, et peut-être même que la personne peut se suicider confond beaucoup de gens. C'est pour ça que les savants disent la dunya, ils la font ressembler à qui? Ils disent la dunya, c'est comme la prostituée. La dunya, c'est comme la prostituée. Elle ne reste jamais avec un seul homme. Pourquoi on l'appelle prostituée, la femme, la prostituée? Parce qu'elle ne reste jamais avec un homme, elle n'est pas mariée comme une femme normale qui a un seul homme. Elle change tout le temps. Tout le temps, elle change d'homme. C'est comme ça la dunya. Jamais elle ne reste avec une seule femme. Comme ça la dunya. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit, hadith bon. Il a dit hadith bon. Qu'a-t-il dit? Moi, quand je lis ce hadith, vraiment, yani, je le médite beaucoup et j'aime beaucoup ce hadith. Et je le cite beaucoup aux gens. Qu'a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, « Men asbaha wa dunya hamma. » Quiconque de vous, n'am, qui, lorsqu'il se réveille le matin, la dunya, c'est elle, yani, Hammo, vous savez quoi? C'est elle son souci. Quiconque de vous, qui, lorsqu'il se réveille, il a la dunya, c'est son souci, son grand souci. Que va-t-il lui arriver? Il a dit, Shattatallahu shamla. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va quoi? Va lui faire trois choses. Premièrement, il a dit, il va lui mettre la pauvreté entre ses yeux. Et il va lui quoi? Yani, il va sa famille qui était unie, etc. Il va la lui désunir. Et troisièmement, il a dit, et il n'aura de cette dunya que ce que Allah Ta'ala lui a écrit. Donc le châtiment de celui qui ne pense qu'à cette dunya et qu'à l'argent, qu'à la richesse. Celui-là, il a dit, le premier châtiment, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui fera de sorte que il lui mettra la pauvreté entre ses yeux. Est-ce que vous avez remarqué que les richards, etc., que jamais ils ne sentent qu'ils sont trimilliardaire, et comme ça, jamais quelqu'un ne s'arrête. C'est pour ça que le prophète a dit, il a dit, deux avides ne sont jamais rassasiés. Qui? Il a dit, celui qui aime la science. Est-ce que quelqu'un qui aime la science religieuse, il peut s'arrêter? Il peut dire, khlas, j'ai lu les 40 hadiths du Nawawi, j'arrête. C'est pas possible. Jamais tu peux arrêter ça. Il a dit, et talibou dunya, celui qui veut cette dunya, jamais il ne peut arrêter, jamais il n'est rassasié. Dans un autre hadith, il a dit, tu lui donnes une rivière de d'or, il te dit, j'en veux la deuxième. Tu lui donnes la deuxième, il te dit, j'en veux la troisième. En mohem, quiconque va faire de la dunya son grand souci, Allah Ta'ala va lui donner trois châtiments. Le premier, la pauvreté entre ses yeux. N'am. Et il va lui, comment on dit ça en français, c'est difficile, mais il va lui désunir sa famille. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche la dunya, il est très occupé. Est-ce qu'il a le temps de s'asseoir avec sa famille, s'asseoir avec sa femme, s'asseoir avec ses enfants, de parler avec eux, de discuter, de plaisanter, d'aller sortir avec eux? C'est pas possible. Du matin au soir, les téléphones, ils courent, les conférences, les banques, les je ne sais pas, du matin au soir. Il n'a pas de temps d'être avec sa famille. Donc sa femme, je ne sais pas où elle est, ses enfants, ils sont pas, il ne sait pas où ils sont, ses filles, il ne sait pas où ils sont. Il n'a pas le temps. Sa famille désunie. Non. Et troisième châtiment, c'est quoi? Malgré tout cela et tout ce qu'il fait, il n'aura de la dounière que ce que Allah Ta'ala a écrit. Je continue le hadith, il n'a pas terminé. Il a dit, quiconque va faire son souci, c'est l'au-delà. L'au-delà. Quiconque va faire de l'au-delà, son souci. Le prophète a dit, alors Allah subhanahu wa ta'ala, un peu de pain. Un peu de date, un peu de pain. Maximum. Et il se sentit les plus riches du monde. Naam. Quand, naam, justement les savants disent, quand vraiment, naam, tu mettras yani, l'au-delà dans ton cœur et ton grand souci, tu vas voir que quoi? Que tu ne chercheras jamais à être quelqu'un de riche. Car tu sentiras la grande richesse dans ton cœur. Tu te sentiras le plus riche en n'ayant rien. Tu te sentiras le plus heureux en n'ayant rien. Tu sentiras le plus fort en étant très malade. Et comme ça. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim. Yani, qui a été vécu par tous les salafs. Radiallahu ta'ala anhum. Naam. C'est pour ça que le prophète a dit Al-Rina Rina Nafs. A dit dans le Bukhari. Il a dit la richesse, c'est la richesse du cœur. Quand dans ton cœur, Allah Ta'ala te fait descendre la richesse, tu n'as rien, tu vas te sentir toi le plus riche qu'il y a en France. Alors que tu n'as rien. Subhanallah al-Azim. Et les autres qui ont tout, ils vont se sentir les plus pauvres. Les plus riches, les milliardaires, ils vont se sentir les plus pauvres. Ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit en train de penser comment amasser d'autres richesses. El Mohim, il va faire de l'au-delà sans souci, Allah Ta'ala lui donnera lui faire yani descendre la richesse, lui regrouper sa famille. Vous voyez la famille comment qu'elle se regroupe et elle se désunit, c'est à cause de est-ce que ton souci c'est l'akhira, c'est l'au-delà, ou là ton souci c'est la dunya. C'est pour ça il a dit deuxième récompense, il lui unit sa famille. Et la troisième récompense, et la meilleure, il a dit, « Wa atithu dunya raki'a » ou « rahima ». Il a dit, il a dunya, cette dunya, dont il pense plus à elle, elle viendra vers lui, Naam, subhanallah al-Azim, elle viendra vers lui, prosternée. Elle viendra vers lui prosterné. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Donc, tout ça pour dire à cette personne, les dettes, c'est vraiment difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des doigts pour que Allah Ta'ala yani, éloigne de lui qu'il ait des dettes. Les dettes, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la nuit, c'est des soucis. Et le matin, c'est quoi? Le matin, c'est la personne doit se cacher des gens. Ils se sont humiliés devant les gens. Quand tu rencontres ton créancier, tu n'as pas payé, non, tu te sens tout rien devant lui. Tout rien. Alors peut-être que tu es mieux que lui. Mais maintenant que c'est lui le créancier, tu es devenu humilié de penser à avoir les moyens pour vivre, naam, avoir une voiture, une maison, ma'lish, mais de ne pas faire des projets pour devenir milliardaire, etc. Car tout cela, ça va quoi? Ça va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'éloigner du din. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit, Inna tujjara humul fujjar. Illa ma rahima rabbi. Comme ça, il a dit. Authentifié par Sheikh Albani. Il a dit Inna tujjar. Il a dit les commerçants, humul fujjar. Ce sont eux les pervers. Il a dit sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. En voulant devenir richard, tu seras obligé de le faire au détriment de ta religion. Au lieu d'aller à la mosquée écouter un cours, tu as une réunion, je ne sais pas où. Tu dois aller à la banque, tu dois courir à la mairie, tu dois aller dans telle société, tu dois, du matin au soir. Est-ce que tu auras le temps d'ouvrir un livre? Tu auras le temps d'apprendre un verset? Tu auras le temps d'écouter une cassette? C'est pas possible. Non. Vis pour ton au-delà. Vis pour ton au-delà. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches les palais. Non. Les grands palais t'attendent demain quand tu vas mourir. Des efforts pour lui obéir. Allah Ta'ala ne t'a pas dit de mourir ici, de ne pas vivre, ne pas t'habiller, ne pas avoir une maison, ne pas avoir un climatiseur s'il fait chaud. Il t'a pas dit ça. Mais il t'a dit ne fais pas cette dunya, ne fais pas d'elle des soucis pour toi. La dunya, mets-la dans ta main, pas dans ton cœur. La dunya, mets-la dans ta main. C'est toi qui la commandes. C'est pas aller dans ton cœur, c'est elle qui commande. Maintenant, il dit, est-ce que cette personne peut travailler dans société mixte ou je ne sais pas ce qu'il a dit. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, surtout pour ceux qui sont en France, etc. Quelqu'un peut travailler en France sans être, par exemple, dans une société mixte. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. La mixité, c'est pas toi qui l'as voulu. On te l'a imposé. Mais moi, quand je suis dans la société où il y a les femmes qui travaillent, etc., on va voir, yani, c'est quoi mon comportement. Il y a des gens qui, lorsqu'il y a la mixité, du matin au soir, il est, je ne sais pas, collé à la femme, il est en train de discuter avec elle, en train de rire, en train de plaisanter, en train de faire des blagues, en train de faire des top 5, en train de je ne sais pas quoi. Il y a celui qui travaille avec des femmes, et ne parle avec la femme que quand c'est obligé. Naam, il est là avec son travail, le travail est terminé, salam alaykoum, il part chez lui. Naam, celui-là, il est excusé parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Mais celui qui profite de la mixité pour yani, faire le haram, etc., celui-là, bien sûr, il n'est pas excusé. Tfadl, inshallah.
Naam, salam alaykoum. Donc, cher, vous me dites ainsi, ça coupe. Car lorsque vous donniez les réponses, ça coupait, mais c'était compréhensible, alhamdoulilah. Mais surtout, si vous ne comprenez pas les questions, dites-le moi directement, inshallah. Alors, on passe aux questions suivantes. Question de Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre question concerne les frais que la poste encaisse quand nous envoyons de l'argent en Algérie. Ces frais de poste augmentent avec le montant que l'on envoie. Naam, c'est le pal, cher. Naam, c'est pas le talk. Donc, ces frais de poste augmentent avec le montant que l'on envoie. Par exemple, pour 10 euros, la poste encaisse 1 euro. Et pour 100 euros, elle encaisse 10 euros. Ces frais sont-ils à considérer comme des intérêts dans ce cas? Et est-il donc licite d'envoyer de l'argent par mandat? Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Question anonyme. Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Un frère demande. Il veut faire la hijra. Il a les moyens de la faire et tout ce qu'il faut dans ce pays musulman. Maison, voiture, etc. Cependant, sa femme ne veut pas le suivre sous prétexte qu'elle n'est pas prête et que ce sera trop difficile pour elle de quitter la France. Que doit-il faire? Patienter et lui faire nasiha bien que cela soit difficile, ou la divorcer et faire la hijra, car elle lui a dit, moi, Naam. Vous avez entendu quoi, cher? La première question, est-ce que vous l'avez entendu, cher? Est-ce que vous entendez, Inch'Allah? Akhel Rouraba, est-ce que tu m'entends? Akhel Rouraba, cher, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Cher, est-ce que vous avez entendu la première question? Sur la poste. Ah, donc je répète la deuxième, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Un frère demande. Il veut faire la hijra. Il a les moyens de le faire. Et tout ce qu'il faut dans ce pays musulman. Maison, voiture, etc. Cependant, sa femme ne veut pas le suivre sous prétexte qu'elle n'est pas prête et que ce sera trop difficile pour elle de quitter la France. Que doit-il faire? Patienter et lui faire nasiha, bien que cela soit difficile, ou la divorcer, et là, car elle lui a dit, moi je ne pars pas. Barakallahu fikoum cher. Donc, troisième question, Inch'Allah. Question de Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'invoque Allah, le tout miséricordieux, le majestueux, de vous préserver de tout mal et de vous rajouter de sa science. Pourriez-vous, cher, s'il vous plaît, nous donner le sharh de ce hadith? Jazakumullah khairan. Le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Pourriez-vous m'éclairer, cher? Jazakumullah khairan. Wa hayyakum ar-Rahman. Donc, question anonyme, Inch'Allah. En fait, ce n'est pas vraiment une question, cher. Assalamu alaikum. Barakallahu fikoum. Je vous ai envoyé un mail à nouveau sur ma situation. Isolé entre des koufars et divorcé. J'ai mis dans le titre que je suis la sœur de Paltalk. Qu'Allah Ta'ala vous récompense pour vos efforts dans la da'wa. Assalamu alaikum. Donc ça, c'est la sœur chère de mercredi qui vous avait demandé par rapport au mail. Pas, je pense pas que c'était la sœur dont Al-Ghuraba parlait. C'est l'autre sœur que je vous avais donné l'adresse. Elle demande toujours sa réponse, Inch'Allah. Donc, question suivante. Question de Abu Hamza. Assalamu alaikum. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je vous aime au nom d'Allah pour le bien que vous faites à la Ummah. J'ai fait un songe il n'y a pas longtemps dans lequel je me trouvais en face d'un miroir et que je répétais La ilaha illallah. Et chaque fois que je répétais cela, je voyais une lumière dans mon visage qui augmentait de plus en plus. J'aimerais avoir, si possible, une explication. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. Donc, dernière question. Question, Inch'Allah. Question 2. C'est Sabil. Assalamu alaikum, cher Hana. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Ma question est la suivante. Pouvez-vous m'expliquer, est-ce que les duas peuvent changer notre destin ou éloigner une chose mauvaise qui aurait pu nous arriver dans l'avenir malgré qu'Allah exalté soit-il, a tout écrit 50 000 ans avant notre création? Barakallahu fikoum, Cheikh Anna, pour votre réponse. Wa hayyakoum Allah. Tafadhal, Cheikh. Afwan, Cheikh, je rajoute, Inch'Allah. Le frère, la dernière fois, vous avez envoyé. On avait lu une question sur une société de transport. Qui travaillait pour de la sous-traitance et vous aviez demandé donc au frère de vous l'envoyer par mail pour bien relire la question et la comprendre, Inch'Allah. Donc le frère dit qu'il vous a envoyé la question et donc il aimerait savoir tout simplement si vous aviez la réponse, Inch'Allah, et surtout si vous avez vu le mail. Jazakumullah khairan, cher.
السلام عليكم. مسلم فيه صوت؟ مسلم الحمد لله. Regarde la troisième question. Tu as parlé de Naam, les hadiths qui Zama, une belle-mère pouvait demander à je ne sais pas qui de divorcer. Mais il n'a pas cité le hadith. C'est quel hadith? Est-ce que tu as cité un hadith? Je n'ai pas entendu. Tfadlal.
Naam, cher. Donc je pense qu'elle a mis la partie d'un hadith. Donc je reprends sa question, Inch'Allah. Naam, donc elle a dit le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit à son fils de divorcer sa femme alors qu'il l'aimait, malgré qu'il l'aimait. Voilà, c'est ce qu'elle a dit à propos du hadith, cher. Tfadal, cher.
Taïb, pour la première question, pour les frais de poste. Pour les frais de poste, Naam, ça n'a rien à voir avec l'usure et les intérêts. Ça n'a rien à voir avec l'usure et les intérêts. La poste n'est pas obligée qu'elle t'envoie ton argent d'ici vers je ne sais pas où, vers les États-Unis ou là je ne sais où. Et elle n'est pas obligée qu'elle te fasse cela gratuitement. La poste, pour qu'elle te fasse cela et t'envoie ton argent par avion ou là par bateau, là par je ne sais pas quoi, hein, elle doit payer, bien sûr. Et toi aussi, tu dois payer cette transaction. Et ça, on dit, ça n'a rien à voir avec quoi? Ça n'a rien à voir avec les intérêts. C'est quelque chose, même, que tu payes pour le service qu'ils te font. Comme ça disent les savants. Taïeb. Pour la femme ou là pour l'homme qui a dit que sa femme ne voulait pas faire hijra, etc. Est-ce qu'il patiente avec elle ou là il la divorce? Maintenant, c'est à lui de voir. S'il est prêt, il a les moyens de faire la hijra comme il a dit, et il est sûr de sa femme que c'est pas le genre, yani, qui peut revenir sur ses décisions. Si c'est le genre qui a dit, c'est pas la peine de me parler de la hijra, c'est impossible. Dans ce cas, il lui dit salam alaikum, tu es divorcé. Et il part. Non, mais il va faire la hijra, il sauve sa peau. Et il se marie ici ou là, il ramène une autre avec lui. Mais si c'est le genre, c'est lui qui connaît sa femme. Nous, on la connaît pas. Il sait que sa femme, c'est le genre un peu têtu, mais yani, il peut la convaincre avec yani, en lui parlant gentiment, en lui faisant des cadeaux, en lui faisant ceci pour épancher son cœur. Dans ce cas, il patiente un peu, inchallah ta'ala, jusqu'à ce que il réussisse à la convaincre. Pour le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, Naam, qui a dit ou là où il est dit que Omar Bukhtab, qui est son père, lui a demandé qu'il divorce sa femme, a demandé à son fils Abdullah ibn Abdullah qu'il divorce sa femme, et que Abdullah est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire voilà ce que m'a dit mon père, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit obéis à ton père, c'est-à-dire divorce-la. Et il l'a divorcé malgré qu'il l'aimait. Les savants ont dit, hein, comme l'imam Ahmed aussi a dit, l'imam Ahmed, quelqu'un lui a dit, si mon père me demande de divorcer ma femme, est-ce que je lui obéis, c'est-à-dire comme a obéi Abdullah à son père Omar al-Khattab, que lui a répondu l'imam Ahmed? Il lui a dit, Naam, tu lui obéis si ton père est comme Omar al-Khattab. Naam, si ton père est comme Omar al-Khattab, tu lui obéis. C'est-à-dire, si ton père te demande de divorcer ta femme, et que c'est quelqu'un qui a demandé à son fils de se séparer de sa femme à cause que il veut du bien à son fils, et il a peur que, puisque son fils aime beaucoup sa femme, que c'est sa femme qui va le commander, etc., et qu'il va s'éloigner d'Allah Azza wa Jal et risque d'entrer en enfer. Dans ce cas, on obéit à son père. Mais si ton père te demande de faire du tort à ta femme et de la divorcer alors que c'est la femme la plus pieuse, la plus gentille, la meilleure, meilleur comportement. Et il te dit divorce là, tu lui dis non mon père, je ne la divorce pas, je ne fais pas de mal à une personne qui n'a pas fait de mal. Au contraire, c'est elle qui me met dans le din, c'est elle qui se fixe. Bon, quand j'ai dit comme ça, ça veut dire que, yani, ce n'est pas obligé que tu dises comme ça à ton père, pour ne pas le vexer, pour ne pas, hein. Mais dans le cœur, c'est comme ça que tu réfléchis. Si ton père est comme Omar al-Khattab, tu lui obéis. S'il n'est pas comme lui, c'est autre chose. Reste la quatrième question sur le miroir, je n'ai pas comprise. Si c'est possible, tu la répètes, Inch'Allah ta'ala, tfadal.
Non, je la répète, Inch'Allah. Et la personne qui a posé la question sur le mandat et la poste demande si la somme qui est demandée par la poste augmente par rapport à la somme envoyée en Algérie. En Algérie ou dans un autre pays. Est-ce que la réponse reste la même? C'est-à-dire 1 euro sur 10 euros et 10 euros sur 100 euros. Elle demande si la réponse est la même. Et donc la question sur le miroir, donc c'était par rapport à un songe, cher. J'ai fait un songe il n'y a pas longtemps dans lequel je me trouvais en face d'un miroir et que je répétais « La ilaha illallah ». Et chaque fois que je répétais cela, je voyais une lumière dans mon visage qui augmentait de plus en plus. J'aimerais savoir si possible, j'aimerais avoir si possible une explication. Barakallahu fikum wa salamu alaykum. Atfadl al-shir.
Naam, alaykum salam, hatla. Comme je l'ai dit une fois, je le redis aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'on voit dans le songe que ça doit avoir une interprétation. C'est pour ça que beaucoup de gens trompent beaucoup d'autres quand ils viennent par exemple à la télé et qu'il y a une chaîne spécialement pour interpréter des rêves. Au point où tout ce que tu dis, tout ce que tu fais dans le rêve, il a d'après eux une interprétation. Non. Si tu as levé le petit doigt, celui avec lequel on fait tashahhud, l'index, ça a une interprétation. Si c'est celui du milieu, c'est une autre interprétation. Si c'est le quatrième, une autre interprétation. Si c'est la main gauche, c'est une chose. La main droite, c'est l'autre. Si tu as mis ta main sur la tête, ça veut dire telle chose. Si tu l'as mis sur ton nez, autre chose. Sur ta bouche, autre chose. Subhanallah, il faut pas exagérer. Si on rêve d'aubergine, Wallah, il faut pas exagérer. Si on rêve d'aubergine, c'est ça. Si on rêve d'orange, c'est ça. De fraise, c'est ça. De je ne sais pas quoi, de courgette. Non, il faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Donc certains, ce sont des gens qui ne connaissent rien dans le din, qui tombent dans cette arnaque. Et ils disent, Wallah, c'est vrai. Hein? Non, tout ça, ce n'est pas vrai. Le vrai rêve, c'est celui qui se base sur le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Ça doit avoir des bases sur le Coran et la Sunna. Sinon, celui qui interprète comme ça de sa tête, c'est facile. Donc, je vais prendre une chaise, je vais m'asseoir devant la porte de ma maison. Celui qui passe, je lui interprète mon rêve, son rêve comme je veux. Et je prends... Non, c'est pas comme ça. Une fois, il y avait un savant qui interprète beaucoup les rêves. Regardez d'abord. Pourquoi le roi ou la grande personnalité, Naam, le roi, pourquoi dans Sourate Youssouf, il a demandé est-ce qu'il y avait des gens qui interprétaient? Naam, il a demandé, il a employé le mot, quel mot a-t-il employé? Il a employé le mot fatwa. Vous avez remarqué? Eftouni. Eftouni fi ru'yay. C'est ce qu'a dit le Coran. Eftouni. Donnez-moi une fatwa dans mon songe. Fatwa, ça veut dire quoi, la fatwa? Qui peut donner une fatwa? N'importe qui. Pourquoi Youssouf alayhi salam, pourquoi quand il parlait aux gens des faveurs que Allah ta'ala lui a donné, il a dit entre autres, وَعَلَّمَنِي تَأْوِلْ أَحَدِثِ. Entre autres, il m'a appris comment interpréter les rêves. Donc ce n'est pas n'importe qui peut interpréter les rêves. Le hadith se trouve dans le Bukhari. Une fois, le prophète alayhi salam, quand il était assis comme ça, chaque matin, il aimait qu'on lui racontait des rêves pour les interpréter. Une fois, il a dit, est-ce que quelqu'un de vous a vu quelque chose? Quelqu'un a dit oui, moi j'ai vu. Quand il a cité qu'est-ce qu'il a vu, Abu Bakr Siddiq a demandé la permission. Il a dit, Ya Rasulallah, laissez-moi que ce soit moi qui interprète. Il lui a dit, alayhi sallam, tafadlal. Il a interprété. Qu'a dit le prophète, alayhi sallam? Il lui a dit, tu as dit certaines choses justes et certaines choses tu as dit faux. Subhanallah al-Azim, Abu Bakr, l'homme le plus pieux du monde, le plus savant du monde, celui qui a la deuxième place après tous les messagers. La deuxième place quant au rapprochement vers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il s'est trompé dans certaines explications des rêves. Qu'en est-il, yani, les autres? Qu'en est-il, les autres? Al-Muhim, il y avait un savant. Il était assis avec quelques gens. Une personne est rentrée. Elle a dit salam alaikum, alaikum salam. Elle a dit au savant, je voudrais que vous m'expliquiez mon rêve. Dans le rêve, j'ai entendu l'adhan. Le savant lui a dit, je t'annonce la bonne nouvelle, que bientôt, inshallah ta'ala, tu vas faire le hajj. L'autre lui a dit, merci, jazakallahu khair, barakallahu fik, il est parti. Un quart d'heure après, est rentrée une deuxième personne. Chez le savant, elle voudrait que vous l'interprétiez. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, dans le songe, j'ai entendu l'adhan. J'ai entendu l'adhan dans le songe. Exactement, c'est-à-dire comme la première personne. Le savant lui a dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala et va faire la tauba avant que tu ne meurs. Crains Allah azza wa jal et va faire la tauba avant que tu ne meurs. L'autre lui a dit, jazakum Allahu khairan, et il est parti. Les gens qui étaient assis avec le savant se sont étonnés. Ils ont dit, subhanallah, deux personnes sont rentrées chez vous, avec seulement quelques minutes de différence, ils avaient le même songe et vous n'avez pas donné la même réponse. Au premier, vous avez annoncé la bonne nouvelle et le deuxième, vous l'avez mis en garde contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il a dit, naam, je vais vous expliquer. Le premier, quand il est rentré chez moi, il m'a posé la question, j'ai vu comme ça, son apparence, comment qu'il était habillé, la bonne odeur qu'il avait, sa façon de parler, j'ai su que c'était quelqu'un, yani, de propre, quelqu'un de pieux apparemment. Non? Alors quand il m'a parlé de Eden, dans le rêve, ça m'a rappelé le verset où Allah Ta'ala a dit à Ibrahim, « Wa adhin finnas, adhin finnas bil hajj. » Non? Et fais le Eden, yani, appelle les gens au hajj. Donc le hajj, naam, l'appel pour le hajj. Il a dit, donc je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Et le deuxième, quand il m'a posé la question, et j'ai vu comment qu'il était, il est dans son apparence, très sale, avec une mauvaise odeur, naam, c'était quelqu'un, ça se voyait, c'était quelqu'un qui est vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça m'a rappelé le verset dans Sourate Yusuf, où Allah ta'ala a dit, « Wa adhana mu'adhinun » Et quelqu'un a fait appel, a fait l'adhan, ايتها العير انكم لسارقون او vous yani les gens là vous êtes des voleurs sarikun. Il a fait l'adhan, il a fait appel que vous êtes des voleurs. Il a dit alors je lui ai dit crains Allah subhanahu wa ta'ala et va faire tauba. Donc remarquez comment subhanallah al-adim, le même songe, comment que son interprétation a changé yani d'après les personnes et d'après bien sûr comment qu'ils sont, est-ce qu'ils sont des gens de bien, des gens de mal, et comme ça. Al-Muhim, je dis à cette personne que je ne suis pas quelqu'un qui explique les rêves, mais je lui dis que, puisque tu as vu et entendu dans le rêve, le mot, ou là, la phrase, la ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, ou bien des choses qui sont dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des choses bien, et ensuite tu as vu une lumière noire, qui est aussi quelque chose de bien, je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, que yani, ton islam yani, va s'agrandir, ta foi va grandir, yani, que tu vas peut-être yani, apprendre encore des choses, la science, la lumière, yani, ça a un rapport avec le din, quelque chose de bien, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour la dernière question, la personne qui a dit, est-ce que les douas peuvent changer le destin alors que le destin a été écrit il y a 50 000 ans avant que Allah Ta'ala ne crée les cieux et la terre. Cheikh, une personne nous rappelle en PV qu'il faut mettre en garde contre le livre. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Barakallahu fik de m'avoir fait cette remarque. Il y a un livre qui est très connu chez nous et chez vous aussi en France et partout, qui s'appelle Les interprétations des rêves de Ibn Sirin. Je voudrais vous dire que les savants ont dit que ce livre n'est pas vrai. C'est un livre faux. Ce n'est pas Ibn Sirin, radiallahu ta'ala bi rahimahullah, qui a écrit ce livre, comme ça disent les savants. Ils disent que c'est un livre qui a été écrit spécialement à but lucratif, pour faire rentrer de l'argent, c'est tout. Naam. Et peut-être c'est un juif qui l'a écrit. Personne ne sait quelle est la vraie personne qui a écrit ce livre. Mais les savants sont unanimes pour dire que ce n'est pas Ibn Sirin qui l'a écrit. Donc celui qui lit ce livre et interprète les rêves, celui-là il perd son temps. Il perd son temps et il s'égare et il égare les gens. En leur disant, si tu as vu ça, ça veut dire c'est ça, tu as vu ça, ça veut dire c'est ça. Il égare les gens. Alors que ce n'est pas vrai. Naam. Barakallahu fikum pour cette remarque. Jazakumullahu khairan. Donc je disais, il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari qui dit que Allah Ta'ala a tout écrit dans la tablette préservée 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. 50 000 ans, imaginez. Avant qu'il ne crée les cieux et la terre, Allah Ta'ala avait tout écrit. Comment se fait-il maintenant? Il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les douas, les invocations, hein, peuvent changer le destin. Le hadith a dit, s'il y a quelque chose qui peut changer le destin, c'est la doua. C'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction? Apparemment, dans nos têtes, dans nos cœurs, nous, les faibles, nous, les ignorants, on va dire qu'il y a une contradiction. Mais, chez Allah Ta'ala et chez les savants, hein, il n'y a pas de contradiction. Car quand ça vient d'Allah Azza wa Jalla, il n'y a jamais de contradiction. Donc, comment qu'on va concilier entre les deux? On va dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, il y a 50 000 ans, dans la tablette préservée, il a écrit aussi que telle et telle et telle personne allait faire des doigts. Et que, si ce n'était pas les doigts de telle et telle personne, il serait arrivé autre chose. Donc Allah Ta'ala a écrit dans la table préservée quoi? Qu'il allait donner un accident à telle personne le 17 janvier 1990, mais que, sachant que cette personne allait faire des doigts, que Allah Ta'ala lui a fait éviter cet accident. Donc c'est écrit 50 000 ans que cette personne, Naam, allait faire des doigts, et que par conséquent, ces doigts qu'elle a fait ont été la cause pour changer le destin et l'éloigner. Voilà comment que Al-Sunnah al-Jama'a comprennent Afoun, Naam, et concilient entre les deux. C'est pour ça que moi et toi, on n'a pas vu que ce que Allah Ta'ala a écrit pour nous dans la tablette préservée. C'est pour ça qu'on va faire des doigts. Jour et nuit, on fait des doigts. Naam, parce qu'on ne sait pas ce que Allah Ta'ala a écrit. C'est pour ça qu'on va faire des doigts et pour que yani, Allah Ta'ala refoule de nous et éloigne des choses qui peut-être allaient nous arriver. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque Allah Ta'ala décrète quelque chose, décrète par exemple un malheur qui va descendre du ciel et que la personne fait des doigts, il a dit la doigt monte vers le ciel et le décret d'Allah descend du ciel, il se rencontre au milieu du ciel, et il commence à se battre comme ça, Naam, se battre, je ne sais pas comment on dit en français le mot, il a dit, ils vont rester comme ça, à se battre jusqu'à Yom al-Qiyam. Naam, c'est-à-dire que la doua va empêcher ce décret qu'il descende, le décret d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a écrit, il y a 50 000 ans, que tu allais faire cette doua, il savait, et que, alhamdoulilah, t'as donné cette faveur, que tu puisses avec ta doua empêcher le décret qu'il descende. Naam. Enfin, pour la dernière personne qui a parlé du mail et me demande si j'ai lu le mail, son email, elle demande si j'ai lu. Je lui renverse la question. Naam. Je lui dis, c'est à toi de voir, Naam, si tu as lu mon email ou pas. Parce que moi, je t'ai répondu en te posant une question. et tu ne m'as pas répondu. Voilà, donc, la balle, elle est chez toi, bi-idhnillah ta'ala. Tfadhal.
Non, cher, vous parlez de quel mail? Le mail de la sœur ou là, le mail pour la société de transport? Quel mail, cher? Tfadhal, cher.
Je parle de la société de transport. La société de transport. La sœur, je lui ai répondu. Je parle de la société de transport. Il m'a posé une question. Je lui ai répondu par une question. C'est possible que quelqu'un nous pose une question et qu'on lui réponde par une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, c'est quand la fin du monde? Il lui a répondu par une question. Il lui a dit, et que lui as-tu préparé? Vous voyez la réponse, une question. C'est quand la fin du monde? Réponse, que lui as-tu préparé? La même chose ici. La personne m'a envoyé une question, je lui ai répondu par une question. Quand elle me répondra à ma question, je lui répondrai à sa question. Vous comprenez? S'il répond à ma question, je lui réponds à sa question. S'il ne répond pas à ma question, je ne lui réponds pas à sa question. Naam, alhamdoulilah, c'est clair. Tfadhal.
Naam, cher, il dit qu'il a répondu à votre question. Il a dit, vous lui avez demandé s'il était chauffeur, et il a répondu, Naam, je suis chauffeur poids lourd. Tfadhal, cher.
Naam, dis-lui qu'il a répondu qu'il était chauffeur poids lourd, mais il ne m'a pas répondu chez moi. Il a dû écrire à une autre personne. Dis-lui chez moi, Naam, j'ai bien vérifié, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse de sa part. Peut-être qu'il a écrit à je ne sais pas qui a citez-moi un imam de chez vous là-bas. Peut-être qu'il a écrit là-bas. Naam, chez moi, il n'y a pas de réponse. Mais maintenant, je viens d'apprendre par toi qu'il a dit qu'il était chauffeur. Donc je lui répondrai, inshallah ta'ala, demain. Tfadhal. Ou alors, laissez-moi répondre maintenant. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc dis à cette personne, ou là-bas, si tu rencontres cette personne, ou laissez-elle m'entendre, dis-lui, inshallah ta'ala, qu'il n'y a aucun problème, qu'elle travaille dans la société où elle m'a cité ici comme chauffeur. Dis-lui, inshallah ta'ala, il n'y a aucun problème de travailler bi-idhnillah ta'ala. Tfadla.
Donc, je vais vous lire la suite des questions, inshallah. Alors, donc, c'est Abdelrahman 69. Salam alaikum, cher. Un frère a des problèmes de couple. Dernièrement, il s'est disputé avec son épouse. Et il lui a demandé de quitter le domicile conjugal. Inch'Allah, Cheikh, on m'entend bien, Inch'Allah. Il y a du son, Inch'Allah. Je poursuis. Alhamdulillah. Donc on ne veut pas de l'asile, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Un frère a des problèmes de couple. Dernièrement, il s'est disputé avec son épouse et il lui a demandé de quitter le domicile conjugal. Mais maintenant, la famille de la femme souhaite une réconciliation. Cependant, la mère du frère lui interdit de retourner chez lui car elle est énervée contre son épouse. Elle prétend qu'elle lui a tenu des propos durs à son égard. La question est la suivante. Doit-il obéir à sa mère ou tenter de sauver son mariage sachant qu'ils ont deux enfants? Deuxième question, Shir, celle de Mimouna. Salam alaikum. Est-ce qu'une personne non musulmane qui se rend à la mosquée peut se découvrir, la question est mal formulée. Et on a dit, je ne sais pas combien de fois, il faut toujours relire 10 fois. Pour découvrir, doit porter le hijab et avoir les ablutions, une question incompréhensible. Donc voilà. Donc la personne, elle est non musulmane, elle se rend à la mosquée, peut-elle se découvrir ou porter le hijab ou avoir les ablutions? Je n'ai rien compris. Non, voilà. Ça, c'est une autre question, cher. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Peut-on travailler dans un laboratoire où je travaille dans la viande non halal pour nourrir les animaux? Troisième question, cher. Tazerouti. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khaira pour qu'Allah vous accorde donc vous accorde la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la hikma pour une femme qui a eu ses premières menstrues très tard, à 16 ans, et qui étant dans l'ignorance pensait à cet âge-là qu'elle n'était pas obligée de jeûner. Donc elle jeûnait mais pas tout le temps, mais pas tout le mois de Ramadan, alors qu'elle était capable de le faire. Comment doit-on donc faire? Doit-elle rattraper? Et comment car elle ne sait plus du tout combien de jours elle a manqué ces années avant ses 16 ans. Une seule question, Charles. Sana. Une sœur demande, pouvez-vous nous redonner l'avis sur le fait que les pertes blanches annulent ou pas les ablutions? Barakallahu fikoum. Donc je vais lire la dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question d'Oum Amina Sara. Hayakum Allah, Cheikh. Voilà la question d'une sœur. Elle voulait savoir, est-il vrai que lorsque l'on meurt, on peut être enterré n'importe où, c'est-à-dire même dans un cimetière chrétien ou bien juif? Car elle a entendu dire que cela n'avait pas d'importance puisque l'on n'est pas responsable des actes des personnes enterrées à côté de nous. Ceci est-il vrai? Doit-on être obligatoirement enterré avec les musulmans? Alors que là, on fait comme, et qu'Allah vous élève en deux mots. Fadal Yachir, je pense que j'en ai mis 5, Inch'Allah. À vous de répondre, Inch'Allah. Alors que là, on fait comme.
Rouhaba, avant cette question, tu avais posé une autre. Nam, qu'est-ce que tu avais dit dans l'autre? Je crois même, si je ne me trompe pas, Allah alam, si j'entends bien, tu avais dit une question de Om Sana, je crois. Qu'est-ce que tu avais dit? Les ablutions, ou la question à des travaux?
Nam, c'est une question de Om Sana. Et elle parle des pertes blanches, sûr. Elle dit, c'est pas. Mais est-ce qu'ils annulent ou pas les ablutions? Vous avez compris, cher? Je pense, vous avez compris la question? Comme ça, je vous laisse répondre aux autres questions, sûrement. Très bien, bien sûr.
Non, Taïb, pour la première question, je conseille à cet homme de faire son possible pour ne pas disperser sa famille. Donc ce n'est pas à cause de quelques propos que son épouse a tenu à sa mère que ça veut dire que là, s'il va yani, se désavouer de son épouse et jeter ses enfants je ne sais où, mais qu'il essaie de joindre entre les deux. Si sa mère n'accepte plus ou là n'accepte pas cette épouse, hein, qu'il reste avec elle en cachette de sa mère. Il n'est pas obligé qu'il habite avec son épouse chez sa mère. Il va louer un appartement, je ne sais où, et là, il reste avec son épouse et ses enfants pour ne pas yani, faire de problèmes à ses enfants. Car maintenant, s'il va divorcer, ensuite, yani, premièrement, il va faire du tort à sa femme, et deuxièmement, ses enfants vont vivre sans lui, avec un père divorcé, etc. C'est vraiment difficile, et il va les perdre. Taïb. Pour la deuxième question, tu as dit que tu n'avais pas compris. Je crois que la personne dit, est-ce que c'est permis à une personne mécréante de rentrer dans une mosquée, hein, à condition si elle fait par exemple des ablutions, ou bien si elle se met, elle se voile ou là, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça la question. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Les savants disent, le kafir, n'a pas le droit de rentrer à la mosquée si c'est la mosquée Al-Haram. Vous connaissez la mosquée Al-Haram, qui se trouve en Arabie Saoudite. Il a dit celle-là, il y a un verset clair qui interdit à tous mécréants d'y rentrer. Ils ont dit à part Al-Haram, à part la mosquée Al-Haram, si c'est une autre mosquée, en France, en Algérie, en Tunisie, le mécréant a le droit de rentrer si c'est, s'il a dans le but de vouloir yani, faire comprendre l'islam. S'il a dans le but, il commence à chercher l'islam, il veut rentrer pour voir comment ça se passe, comment ils font la prière, comment ceci, comment cela. Peut-être que ça va susciter en lui yani, un quoi yani, un amour vers ce din, où là, ça va allumer en lui une flamme, ou une étincelle qui le poussera à attester son islam. Ils ont dit c'est permis. C'est quoi le délil? Le délil, c'est qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de kuffars venaient et rentraient dans sa mosquée et ils restaient même des jours et des jours. Certains d'eux rentraient dans l'islam et les autres ne rentraient pas et ils n'aura pas interdit de rentrer dans sa mosquée. Avant, bien sûr, qu'il y ait cela. Le deuxième délit, entendez pas? Non, vous m'entendez pas? Et ensuite, il a relâché ce kafir. Ensuite, ce kafir est parti loin et est revenu. Il a dit, je suis venu attester an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a dit, quand j'étais chez vous ici, j'ai pas voulu l'attester pour que ça soit pas hypocrisie ou la part peur de vous. Mais quand vous m'avez relâché, je suis parti, je suis venu vous annoncer que, voilà, je suis rentré en islam. Et le troisième délit, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a attaché shaitan. Vous connaissez le hadith. Il a attaché le shaitan et lui a dit, si ce n'était que yani, mon frère, Suleyman, a demandé à Allah Ta'ala que personne ne devait avoir le même règne que lui, sinon je t'aurais attaché ici jusqu'au matin, jusqu'à ce que les enfants viennent te frapper. Alors que le shaitan, il est aussi kafir, et il était dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si le mécréant veut rentrer dans la mosquée, par curiosité pour filmer, et pour je ne sais pas quoi, faire des diapositives, ou bien je ne sais pas quoi, pour filmer, et pour remplir son album, mashallah, son album, il va regarder comme la mosquée est belle, regardez ce lustre comme il est beau, regardez comme cette faïence elle est belle, tout ça, non, on ne le laisse pas rentrer. Mais si là, pour essayer, pour comprendre, pour Hada, c'est autre chose. Ou la personne qui a dit qu'il travaillait dans un abattoir, non, je lui dis, ensuite elle dit pour donner cette viande à des animaux, etc. Non, je lui dis comment tu peux travailler dans un abattoir où on abat des animaux, on les abat pas avec la charia. On les abat avec l'électricité, on les abat avec des coups de massette, etc. Comment tu peux travailler là-bas? Voilà donc la réponse. Pour la quatrième personne qui a dit que je ne sais pas combien de temps elle a mangé, combien de jours elle a mangé, elle était ignorante, elle ne savait pas, etc. Je lui dis, si tu peux... Non, la viande pour les animaux, ça, mais c'est quelle viande? La viande de quoi? La viande de porc, la viande de qui? Quel animal? Elle dit, wahda. Deuxièmement, comment il est abattu cet animal? Eh, non, cet animal, comment il est abattu? Vous comprenez? Est-ce que... Prenons l'âne. Est-ce que j'ai le droit de prendre une massette et de frapper l'âne sur la tête pour qu'il tombe? Après, je le découpe et je le donne aux animaux. La viande elle-même, si l'animal meurt de lui-même, la viande elle-même est halal pour les animaux. Car l'animal, yani, ne connaît pas le halal et le haram. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Abi Daoud, que les sahaba, dans un voyage, on mis dans des grandes, dans des, comment qu'on appelle, des marmites. Dans des grandes marmites, on mis des ânes, hein, pour les manger. Ils ont fait cuire de la viande de l'âne. Et l'âne, auparavant, n'était pas interdit. Dans les débuts de l'islam, l'âne n'était pas interdit. Ensuite, ce jour-là, alors qu'ils étaient en train de faire cuire l'âne, le prophète a dit, Allah, n'est-ce pas que la viande d'âme, l'âne, à partir d'aujourd'hui est haram. Et reste là, reste l'âne sauvage qui est halal. L'âne sauvage, c'est qui? C'est le zèbre. C'est lui qui a des rayures en noir et en blanc. Celui-là, c'est aussi un âne. Vous avez remarqué qu'il a une tête d'âne. Il a dit, celui-là, c'est qui? C'est halal. On peut manger le zèbre, mais on ne peut plus manger l'âne. Alors, qu'ont fait les sahaba? Ils ont tout déversé. Ils ont tout déversé. Et cette viande-là, qui était déversée, ils l'ont donnée aux animaux. Donc, c'est permis de donner quelque chose de haram à un animal. Mais que ce soit toi qui tues cet animal d'une façon qui n'est pas permise, ou de tuer sans raison, cette chose n'est pas permise. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mais si tu peux et tu... Si tu veux et tu peux de demander cette question à quelqu'un qui connaît mieux que moi, fais-le inshallah ta'ala et dis-nous qu'est-ce qu'il te donne comme réponse. Pour la personne qui a dit qu'elle n'avait pas jeûné beaucoup de temps quand elle était jeûnée de Sira, on lui dit, si tu peux rattraper quelques jours en faisant des calculs toi-même à peu près, des calculs approximatifs, et rattraper, clair Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne peux pas, le hadith, que dit-il? Le hadith dit que la tauba annule ce qui l'a précédé. Si tu as fait maintenant une tauba, une vraie tauba, un vrai repire, alors fais quoi? Fais des jours surérogatifs. Jeûne le lundi et jeudi. Jeûne 13, 14, 15. Jeûne teswa ashura. Et comme ça, pour les pertes blanches, j'ai dit plusieurs fois que l'avis le plus juste, c'était que yani, ce n'était pas de la souillure. Ce n'était pas de la souillure. Reste, est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Certains ont dit que ça annule, comme Cheikh Fawzan, Hafidahullah. Et certains ont dit que ça n'annule pas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Enfin, pour... La personne qui a dit que, on lui a dit que c'était pareil d'être enterré parmi les juifs, les chrétiens ou parmi les musulmans. La réponse, cette chose qu'on t'a dit, mon frère ou ma soeur, est vraiment une chose fausse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous éloigner des mécréants aussi bien vivants que morts. Vivants que morts. Vivant, en nous obligeant à faire la hijra. Et cela implique que lorsqu'il t'oblige à faire la hijra, ça veut dire que tu vas mourir dans un pays musulman. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt dans un endroit, il est de la sunna de l'enterrer dans la même ville où il est mort. S'il meurt, par exemple à Alger, on l'enterre à Alger, on ne le prend pas à Blida. S'il meurt à Blida, on l'enterre à Blida, on ne l'emmène pas. On ne le prend pas à haut. Bon, pour l'enterrer. Ils ont dit, sauf pour que il s'éloigne du grand imam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. Dans Majmou' al-Fatawa. On lui a posé la question suivante. On lui a dit, une chrétienne mariée à un musulman est morte avec un bébé dans son ventre. Un bébé de 6 mois ou de 7 mois dans son ventre. Les deux sont morts. Est-ce que on va l'enterrer dans un pays, dans un cimetière de kuffar, puisqu'elle, c'est une kafira, ou bien on va l'enterrer dans un cimetière de musulmans puisque son fils, dans son ventre, là, son enfant, est musulman. Maintenant, si on va l'enterrer dans le cimetière des Koufars, on va faire du tort à son fils, son enfant. Pourquoi? Il est musulman. Qu'est-ce qu'il fait là entre les Koufars? Et si on va l'enterrer, elle, dans un cimetière de musulmans, on va lui faire du tort. À qui? À l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est une kafira. Qu'est-ce qu'elle fait là parmi les musulmans? Donc, pour que vous compreniez que le musulman doit être mis avec les musulmans et les kofars avec les kofars. Qu'a répondu Cheikh l'Islam, rahimahullah, et ce qui prouve bien sûr que yani, c'était vraiment un grand savant, il a dit, on va l'enterrer ni dans un cimetière musulman, ni dans un cimetière de kofars. On va chercher un endroit comme ça, isolé, et on l'enterre, en mettant son dos à elle, vers la Qibla. Il a dit, on va l'enterrer, ni dans un cimetière de Koufar, ni musulman, mais dans un endroit isolé, une montagne, ou là je ne sais pas où, et on va l'enterrer en faisant de sorte que son dos à elle, soit vers la Qibla. Pourquoi? Ça prouve aussi, c'était un grand savant. Il savait, déjà autrefois, il n'y avait pas de science, etc., médicale, et il savait que le bébé, quand il est dans le ventre de sa femme, il a quoi? Il a sa tête tournée vers le dos de la femme. Beaucoup de gens croient que, en voyant la femme enceinte, croient que le bébé, yani, donc son visage, il est en face de... Yani, de il voit, il est, les deux, ils voient du même côté. Alors que c'est faux. Le bébé a son visage de l'autre côté. Il a dit, celui-là, son bébé, étant musulman, donc on doit l'enterrer de façon à ce que le dos de sa mère soit vers la Qibla. C'est-à-dire pour que son bébé, son visage soit vers la Qibla. Regardez les savants, il y a en l'an 500 et quelques, 600 et quelques. Il n'y avait ni microscope, ni échographie, ni stéthographie, ni je ne sais pas quoi. Subhanallah, les savants, mashallah. Voilà, inshallah ta'ala pour aujourd'hui, le Rouraba. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? De ma part, j'ai terminé.
Il ne reste plus qu'à vous dire qu'Allah vous récompense, Cheikh. Et en même temps, pour vous dire, par rapport au frère qui devait venir aujourd'hui, il ne viendra pas aujourd'hui, Inch'Allah. Et il viendra mercredi, Inch'Allah. Donc, on m'a informé, il m'a dit qu'il pouvait pas venir plus tôt. Et Inch'Allah, donc, je vous confirmerai pour mercredi. Et donc, voilà. Barakallahu fikoum, Cheikh. Salam alaykoum.
D'accord, barakallahu fikoum. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, mercredi, dans Tafsir, Surat al-Fatiha, Inch'Allah ta'ala. Et peut-être que, yani, il reste seulement 4 ou 5 cours sur al-Fatiha. Et on va commencer après. والأعوذ برب الناس نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته